Nous sommes Daniel et Philibert, les fondateurs de The Bouffe, agence de marketing et communication spécialisée dans le business de la bouffe, de la terre à l'assiette.
Nous sommes tous les deux passionnés par la bonne bouffe. Daniel est brésilien et vit à Paris depuis plus de 10 ans. Il est amateur de vin nature et adore cuisiner.
Philibert est savoyard, un ambassadeur de son terroir. Notre activité nous amène à rencontrer et accompagner les dirigeants et entrepreneurs du business de la bouffe.
Ainsi, nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast Business of Bouffe. Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez un grand critique gastronomique. Il est réputé pour sa plume parfois mordante, mais très respecté dans le milieu. On verra d'ailleurs qu'il a bien d'autres casquettes. Il est ce qu'on appelle aujourd'hui un slasher. Il fait de la télé, de la radio, de l'édition. Il est aussi entrepreneur. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel. Bonjour Daniel.
Bonjour Philibert.
Et notre invité aujourd'hui est Emmanuel Rubin. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Donc Emmanuel, pour commencer, je te laisse te présenter.
Au simple, Emmanuel Rubin, j'ai 51 ans, je suis journaliste d'abord et avant tout. Il se trouve que par conviction, par passion, par curiosité, j'ai cette spécialité d'être un journaliste gastronomique. Mais on va en parler.
Et justement, notre question rituelle qui a encore plus de sens aujourd'hui, c'est pourquoi la bouffe ? Comment tu es arrivé dans l'univers bouffe ?
Alors moi finalement c'est assez simple. Je suis fils de restaurateur. Mes parents avaient un restaurant, mon père est cuisinier, ma mère, comme souvent à cette époque, accompagnait mon père dans sa carrière. Et je suis un enfant de la casserole. J'ai quatre frères, enfin j'ai trois frères, nous sommes quatre. Il n'y en a pas un qui est dans la gastronomie, mais il y en a toujours un, vous savez, qui est piqué un peu de l'affaire. C'était moi. En longtemps, j'ai voulu devenir restaurateur. C'est un métier très difficile. Et à un moment donné, j'ai dit non, c'est pas ce que je veux faire. Je veux faire autre chose.
Tu as essayé quand même
ou... Non, pas du tout. Jusqu'au bac, je voulais vraiment être restaurateur. Moi, mon ambition, c'était de faire l'école hôtelière. Et puis, comme quoi, c'est un professeur qui m'a dit vous êtes pas mauvais quand même, Rubin. Vous devriez réfléchir à autre chose. À l'époque, il n'y avait pas ce côté qui est en train de changer. C'est une
C'était
bonne chose.
C'était pas bien vu de faire la cuisine.
Ouais, il y avait. Quand t'étais dans les lycées, il y avait quand même un côté. Quand tu mettais en début d'année, quand tu remplissais tes fiches et que tu mettais qu'est-ce que tu veux faire et que tu disais restaurateur, tes profs te regardaient comme un train en terminale.
C'était
avec
une autre
un
époque.
C'était une autre époque. Aujourd'hui, c'est en train de changer. C'est tant mieux, ça. C'est plutôt... Il y a encore du boulot, mais c'est plutôt sur la bonne voie. Et c'est un professeur qui m'a dit, vous avez un bon niveau, vous devriez penser à Hippocagne. Je savais même pas ce que c'était qu'Hippocagne. Alors, j'ai dit, pourquoi pas. Et puis, de fil en aiguille, je me suis aperçu que c'était peut-être pas vraiment ma vertu d'être restaurateur ou cuisinier. Mais par contre, la passion de la chose gastronomique, elle est restée là. Et ça, je l'ai jamais abandonné. Et après, en voulant devenir journaliste, je me suis dit, il y a pas de raison. Le journaliste, c'est ouvert. C'est un métier de curiosité, de passion. Tu dois quand même d'abord et surtout être passionné par l'information, par l'actualité, par le monde. Mais si tu as quand même un tropisme, faut pas l'abandonner. Et moi, j'avais très rapidement décidé de dire, si je peux travailler et cumuler finalement ma passion pour le journalisme et ma passion pour la chose gastronomique, eh bien ce sera très bien. Et j'ai eu la chance, j'ai bien la chance de le faire.
J'ai une question qui est très personnelle, c'est une curiosité que j'avais par rapport à toi. Est-ce que tu cuisines en fait ? Est-ce que tu fais à manger ?
Alors la vérité, c'est que je ne cuisine pas. Et alors j'ai beaucoup travaillé dans les cuisines. Quand t'es fils de restaurateur, ton argent de poche, tu le gagnes en cuisine. Alors moi, j'étais tellement pas très bon qu'il m'avait plutôt foutu à la plonge. Mais je cuisine pas parce que, en fait, j'ai tellement été entouré. D'abord, ma mère cuisine très bien, mon père cuisine très bien. J'ai eu deux femmes de ma vie et dans ma vie qui cuisinaient très bien. Je suis entouré de restaurateurs. Et en fait, c'est pas que ça me fout des complexes, mais j'ai compris que j'étais pas un bon cuisinier parce que je suis impatient. Mmh. Et la cuisine, c'est une école de la patience. Donc, hormis pour nourrir mes enfants,
ouais.
C'est-à-dire qu'ils trouvent ça sinistre ce que je fais,
on n'imaginait pas ça.
Je ne cuisine pas.
Pas du tout, d'accord.
Mais on peut en reparler. Souvent, la question pose, les critiques sont des cuisiniers frustrés. Mon œil, bonhomme. Et les chefs, alors, ils sont pas des stars frustrés, des éditeurs frustrés, des auteurs frustrés. Il y a pas de frustration. Il y a un milieu, un univers où tout le monde a sa place. Et parmi cette place, celle des critiques. Moi, je suis très bien dans mon rôle de critique que j'assume. Il y a aucune frustration. Je suis critique gastronomique et journaliste gastronomique. Ils sont chefs. C'est comme si moi, je leur reprochais de passer à la télé. T'as pas un problème d'ego parce que d'où tu passes à la télé.
Oui.
Bon, c'est ridicule, c'est
un
faux débat.
On va parler de ça plus tard quand on parlera de ton, ouais, de ta casquette critique gastronomique. Je pense qu'une question qu'on avait aussi, c'est comment tu es arrivé là, parce que ça, c'est des questions qu'on nous pose en fait. Il y a même une compte Instagram Gastronomos. En fait, juste pour mettre les choses au clair, nous avons posé la question, donc avant de venir te voir aujourd'hui, nous avons posé la question à notre communauté. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser à Emmanuel Hauban? Donc on a eu quand même pas mal de questions, et donc la première question que je partage avec toi, c'est une question d'un compte gastronomos.fr sur Instagram qui dit: comment on fait pour devenir critique gastronomique? Bon, c'est assez large comme question, mais comment toi tu as fait pour devenir critique gastronomique?
Alors non, elle est intéressante, la question. Il y a encore 15 ans, j'aurais répondu c'est pas un métier, il n'y a pas de règles. Le seul moyen d'être critique gastronomique, c'est un, d'être passionné par le journalisme, car c'était là l'espace d'expression. Fallait être journaliste pour être critique gastronomique. Donc le meilleur moyen, c'était quand même d'avoir envie d'être journaliste. Et ensuite, c'est si dans ce métier de journaliste, tu avais une passion pour la chose gastronomique, alors tu avais éventuellement des petites portes. Et je dis bien des petites portes, parce que la place offerte à la critique gastronomique jusque dans les années 70-80, elle est très faible. Mmh. Alors tu as les Goemio qui vont casser les codes, mais ils sont un peu tout seuls. Aujourd'hui, je répondrai plus ça. Depuis 20 ans, depuis le début des années 2000, on le sait tous, on pourra peut-être en parler, il y a une folie. La food, c'est redevenu une passion mondiale et française. Elle est décomplexée, parfois au risque d'être un petit peu précieuse et ridicule. Mais aujourd'hui, on le voit bien, c'est devenu business of bouffe, vous avez compris. C'est devenu un business. Et donc, dans tout business, il y a le savoir-faire et il y a le faire savoir. Le faire savoir, c'est le monde des médias, de la communication et de la critique. Aujourd'hui, c'est un métier qu'on peut vouloir faire. On le voit d'ailleurs dans les écoles de journalisme. Moi, quand j'ai fait mes écoles de journalisme, il n'y avait pas, on n'enseigne même pas le lifestyle. Alors encore moins la gastronomie. Aujourd'hui, dans les cursus à l'ESJ, au CFJ, dans les écoles de journalisme, tu étudies le lifestyle et par là même la chose gastronomique. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, tu peux décider de le faire parce qu'il y a la place dans les médias, et les médias au sens le plus strict, hein, des réseaux sociaux jusqu'aux médias entre guillemets un peu installés, c'est-à-dire les print, la radio, la télé. C'est enseigné à l'école, donc aujourd'hui c'est assez facile, il suffit de suivre un cursus. À mon époque, ça n'existait même pas. Mais il y avait une chose, tu devenais critique gastronomique parce que tu cumulais la passion de la chose journalistique et ce qui te permettait de rentrer dans les médias, et puis tu la doublais d'une passion gastronomique, sauf qu'il y avait 3 places offertes.
Et toi, du coup, t'as une formation de journaliste, t'as fait une école de journaliste, c'est ça?
Ma formation, elle est assez classique. Ouais. Donc, après mon bac, j'ai fait Époque Anne-Cagne.
Ouais.
J'ai raté Normale Sup parce qu'à l'époque, Époque Anne-Cagne, il n'y avait pas 36 sur la place de Paris. T'étais là pour préparer Normale Sup.
Ouais.
C'est pas là pour préparer Sciences Po ou l'école de journalisme. Donc quand tu ratais Normale Sup, tu revenais directos, ouais, à la fac. Alors si t'avais une passion pour l'histoire, moi je m'aimais bien l'histoire, j'ai fait l'histoire. Et puis me suis aperçu très rapidement qu'en fait un métier que j'avais pas appréhendé, c'était le journalisme, et je me dis je vais faire une école de journalisme. Et donc j'ai fait une école de journalisme, et puis après le cursus classique, tu fais des stages, puis des piges, et puis si t'es piqué, bah tu rentres, tu multiplies les stages.
Alors t'as pas tout de suite fait des critiques gastronomiques.
Il y avait pas de place.
Ouais, voilà, c'est
D'abord je voulais devenir journaliste, ouais, par passion de l'information et pas autre chose. Donc moi mes premiers stages c'est à France Soir au service des infos gênées, c'est à Science et Vie. J'ai rapidement compris à Science et Vie au bout de 4-5 piges que je passais plus de temps à comprendre les sujets qu'à les écrire.
C'était peut-être moins ton sujet, ouais.
J'étais passionné en revanche par le lifestyle et l'art de vivre. Et je me disais là, à la manière des Anglo-Saxons, en France, c'était pendant des années, c'était vraiment, il y a des grandes étiquettes en France. Donc le journaliste politique, le journaliste politique international, tout ça, c'est vertueux. Le lifestyle, c'était les ringards du journalisme, mm-hmm, c'était les dames patronesses. Moi, je regardais ce qui se passait dans la presse étrangère et je m'apercevais que eux, quel que soit le domaine, que tu parles de sport, de politique internationale, de politique ou de lifestyle, ce sont des journalistes qui le font avec une grille journalistique. Je me dis, il n'y a pas de raison. Et donc j'ai intégré des rédactions et puis j'ai eu la chance d'intégrer un journal qui s'appelait Le Figaro, dans lequel je voulais travailler. C'est mon journal et je voulais y travailler.
T'es rentré très tôt au Figaro, ouais.
Très tôt. Ouais. Et je l'aimais d'autant plus qu'il avait inventé un magazine, enfin un supplément qui s'appelle Le Figaroscope, pour lequel je travaille toujours, et dans lequel, justement, ils appliquaient des grilles journalistiques à la culture et à la gastronomie.
Ouais.
C'était une chance énorme. Il y avait un personnage, moi, j'étais en Hippocagne en 87, et c'est là que Le Figaro s'est lancé. Et le Figaroscope,
ouais.
C'est et François je Simon. Lisais un personnage que je connaissais ouais. pas, que je fantasmais, qui était François Simon.
Ouais, c'est François Simon, d'accord.
En 87, hein. Ouais. Il est devenu star avec les gogos.
Juste moi, je suis brésilien, par exemple. Moi, je suis arrivé en France en 2006. Je connaissais pas François Simon. J'ai découvert les personnages plus tard. Pour ceux qui nous écoutent qui connaissent pas François Simon, est-ce que tu peux expliquer qui est François Simon?
François Simon, c'est un journaliste. Vraiment, lui aussi, une formation journalistique qui ne connaissait rien à la bouffe. Mmh. François Simon, c'est un journaliste qui est né à Nantes, qui a d'abord travaillé dans la presse régionale, la presse Océan, puis qui est monté à Paris pour travailler au Matin de Paris, ouais. et qui était plutôt au service infogéné. Et il a rencontré, mais vraiment les hasards des rencontres, Christian Millau, l'un des fondateurs de Goémillau, qui lui a dit « Vous devriez travailler dans la gastronomie. » Et François Simon, il arrive un peu par effraction dans cet univers-là. Et il applique tout de suite une grille journalistique. Mmh. On pourra revenir à ce que c'est qu'une grille journalistique. C'est d'abord qu'il dit la gastronomie, c'est aussi une actualité, c'est aussi de l'information. Ça paraît idiot de le dire aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'en 87, ça n'existe pas. Et puis, c'est une mise à distance, c'est une construction, c'est une écriture. Et il va mener sa carrière journalistique, mais dire, avant on parlait de chroniqueur ou de critique journaliste. Lui dire, il va y avoir un journaliste culinaire. Et ça, c'était une idée neuve en France dans les années 80. Et encore plus dans les années 90. Il crée Le Figaroscope et il crée une nouvelle grille de lecture de la gastronomie, une nouvelle écriture. Moi, je suis jeune journaliste, j'ai une passion de la gastronomie, je me dis, j'adore Le Figaro, je veux travailler au Figaro. C'est une espèce de conjonction. T'aimes le journalisme, t'aimes la gastronomie, t'as envie de travailler au Figaro et il y a un support qui s'appelle Le Figaroscope mené par un personnage qui s'appelle François Simon qui est en train de casser les codes.
Ouais.
Et j'ai tout fait. Quand je suis rentré au Figaro, ils m'ont casé au service culture.
Comment tu
et j'ai dit, non, moi je veux pas aller au service culture, je veux aller au Figaroscope. Le vilain petit canard du groupe. Il me dit, vous êtes d'habile, on vient de vous mettre au service culture. Non, je veux aller au service Figaroscope. Et au Figaroscope, quand je rentre, ils me mettent au service cité, urbanisme, architecture. Et là, j'ai fait des pieds et des mains.
Pas encore la gastronomie.
Pour aller voir François Simon.
Et comment tu fais, en fait, tu as envie de rejoindre cette entité-là. Comment tu fais pour séduire les gens et pour arriver à choper ces postes-là, en fait?
Alors là, encore une fois, c'est vieux comme tous les apprentis journalistes l'ont vécu, le vivent et le vivront. Quand je suis rentré au Figaro, faut avoir ta cible et faut savoir ce que tu veux faire. C'est pas une histoire de carrière, quel est ton objectif. Et j'ai vraiment placé mes pions. Je me suis dit, il y a une porte d'entrée, c'est Le Figaroscope, c'est ce que je veux faire. Puis au Figaroscope, je me dis, faut séduire François Simon. Il y avait des conférences de rédaction et là, il y a eu le héros hasard. Il y avait des conférences de rédaction globales et il parle, on fait un numéro spécial Scandinavie. Et il se trouve que mon père a un rapport très proche à la Scandinavie. Il a beaucoup vécu. Il était directeur du restaurant du Cercle Suédois. Et donc là, durant la conférence de rédaction, je suis jeune journaliste, mais j'éclate tout le monde à tous les niveaux parce que j'ai tout le réseau, y compris en restaurant. Et François Simon dit, vous êtes qui vous? Mais vous avez l'air de connaître les restaurants suédois. J'ai dit, ouais, un peu. Donc il me fait faire le papier, il me dit, il n'y a pas de raison, c'est à vous de le faire. Et puis on discute, il dit, mais en fait, vous connaissez bien la bouffe. Et puis là, je commence à me raconter. Et là, il va me former. Il va vraiment me former. Et j'ai eu de la chance, c'est qu'à l'époque, on prenait le temps de former.
Donc là, t'intègres son équipe à ce moment-là, directement.
Ouais. Et là, pour écrire ma première critique gastronomique, j'ai intégré l'équipe gastronomie du Figaroscope. Et là, tu passes par des brèves, par des petits sujets, par de l'enquête pour pouvoir écrire une critique. J'ai mis 3 ans.
3 ans.
Il m'envoyait au restaurant, il me faisait travailler, il notait mes critiques, il dit impubliable, impubliable. Quand franchement, sans prétention, quand je vois ce qui est publié aujourd'hui, alors je peux vous dire que ce que je lui ai renvoyé, c'est dégoûtant. Je lui en veux à mort. Je dis mais moi j'étais publiable tout de suite. Non, il avait raison. C'était impubliable, c'était nul.
Selon les critiques.
Mais il m'a fait travailler et il m'a expliqué ce qu'était une critique. On y reviendra sûrement, mais il m'a expliqué.
Et je suis curieux parce qu'aujourd'hui on parlait de ça. En fait, il a tout un hype autour de la cuisine depuis des années. Les années 90, la cuisine c'était pas ça en fait. C'était une autre chose.
Ringard. Je vais prendre un exemple. Moi, quand je suis à l'école du journalisme, durant l'été, tu dois faire des stages. Mon premier stage, j'avais demandé Goemio et Cuisine et Vin de France, qui étaient les deux seuls titres qui existaient en presse gastronomique. Je peux dire que quand tu dis à tes professeurs et même à tes collègues, c'est-à-dire à ta promotion, que tu vas intégrer Cuisine et Vin de France, tout le monde se fout de ta gueule. T'es un ringard, une daube, t'es le naze. Eux, ils veulent tous le nouvel offre. Moi, je dis non, c'est ce que je veux faire. Aujourd'hui, et on pourra expliquer pourquoi, comment. J'imagine qu'il y a plein de journalistes, et je le sais, moi j'ai encore reçu il y a quelques jours une jeune élève de troisième qui veut faire son stage d'observation au service culinaire du Figaro. Ouais. Parce que c'est son objectif. Comme quoi les choses ont changé, et c'est tant mieux. La cuisine, par plein d'événements, et la gastronomie est redevenue sexy, désirable. Mais dans les années 80, c'est ringard.
Et justement, puisqu'on en parle, c'est intéressant. Toi, comment t'expliques cette révolution et cette évolution et ce changement de regard vis-à-vis de la gastronomie que t'as bien vécu? Tu m'expliques.
Alors,
très bien, là.
Moi, je l'explique parce que, en fait, l'assiette, c'est toujours un miroir de la société. Et on va pas raconter toute l'histoire, mais après-guerre, c'est l'émergence des classes moyennes, c'est la libération de la femme, c'est le culte du progrès. Et finalement, des années 60 jusqu'aux années 80, eh bien si on se circonscrit à l'univers français, les femmes, elles ont plus envie de faire la cuisine. C'est très moderne, c'est super cool d'avoir des produits surgelés chez soi, d'avoir un micro-ondes. La vie se passe ailleurs, c'est la découverte des loisirs. Les loisirs, les gens, ils font du tennis, ils partent en vacances. C'est un univers de progrès. Et la cuisine, elle a quelque chose d'hyper domestique. C'est contraignant pour le ménage. Soudain, on te libère de tout ça, tu peux faire des plats. Et c'est très moderne à l'époque, et c'est très cool. La cuisine, c'est quelque chose d'assez pénible. La restauration, elle est divisée en deux mondes. T'as la haute gastronomie pour une certaine élite, et puis le bistrot du quotidien, le petit restaurant où les gens vont. Donc tout ça n'est pas très intéressant.
Ouais, on s'y intéresse pas à l'époque, quand même.
Mais on s'aperçoit que les choses évoluent, et on le voit aujourd'hui en plein dedans, que finalement, la gastronomie, c'est pas un art, mais c'est une culture. Et bon sang ne saurait mentir, en France, c'est quand même si on n'y connaît plus rien, parfois, c'est dans nos gènes. Et puis, on a vu les soucis alimentaires, les fébrilités de l'agroalimentaire, la montée en puissance d'un environnement, des gens qui se disaient, y a plus de sens à nos nourritures. Et donc, ils ont commencé à revenir un petit peu à ça, parce qu'ils avaient envie de renouer avec l'appétit à la nourriture. La cuisine, on ne la fait toujours pas. Et on ne la fera plus comme on la faisait avant, c'est-à-dire au quotidien, ça c'est pas vrai. Mais ça redevient quelque chose de désirable, c'est presque un loisir aujourd'hui. On cuisine le week-end comme on allait faire du tennis. C'est pas grave, c'est comme ça, et c'est tant mieux, ça la réimpressionne. Et puis, il y a eu aussi le monde et la mondialisation qui t'a changé. La France, pendant des années, elle s'est crue le nombril du monde gastronomique. Elle l'était. Et puis, elle a formé plein de jeunes chefs, plein de cuisiniers. Et puis, avec l'évolution, l'Angleterre, l'Espagne, les pays scandinaves, ils se sont dit, des jeunes chefs qui ont souvent été formés en France sont revenus chez eux. Ils se sont dit, nous aussi on a un terroir, nous aussi on a une cuisine. Et eux, ils ont commencé à ouvrir des restaurants et à faire une cuisine super excitante pour leur pays. Et du coup, l'Angleterre, l'Espagne, les pays nordiques redécouvraient eux un terroir à la cuisine. Pour eux, ils vivaient pour manger, ils mangeaient pas pour vivre. Tout l'inverse de la France. Ils nous ont bousculés. C'est-à-dire que eux, ça devenait sexy d'aller d'être chef à Londres, à Barcelone ou à Stockholm, au moment où c'était un peu ringard en France.
Toujours pas en France.
Et en fait, les Français se sont dit, on a profité de cette mondialisation. Et à nouveau, on s'est dit, en fait, c'est cool. Et donc, c'est redevenu sexy en France grâce à l'émergence des cuisines étrangères. S'il y avait pas eu ce sursaut ou cette révélation dans les cuisines mondiales. Franchement, l'Angleterre dans les, ou Londres dans les années 80, c'est nul en cuisine. Stockholm, ça n'existe pas. Barcelone, c'est ringard. Ouais. Faut pas l'oublier. Ouais. C'est tous des nazes de la food. Ouais. Ils vivent tous pour bouffer, mais ils sont nuls. Ils se nourrissent quoi. Ils ont pas le sens de la gastronomie. Mais une génération qui avait découvert la chose, est souvent formée en France, est revenue. Elle leur dit vous avez un terroir, vous avez une cuisine. Nous aussi, on peut faire la cuisine. Eh bien, finalement, ils nous ont aidés à se dire, nous qui trouvions ça ringard, redécouvrions notre patrimoine.
Reconsidérer la cuisine.
Ouais. Et on l'a décomplexé. Et finalement, la France est aujourd'hui à nouveau folle de bouffe, doit dire merci à la mondialisation. Voilà une mondialisation vertueuse.
C'est intéressant, ça me fait penser, bon, moi, avec mes origines brésiliennes, je pense à la musique, en fait, elle a la tropicalia, c'est la musique du Brésil, en fait, dans les années 70, on a appris à s'approprier de la musique étrangère pour créer la musique brésilienne, la nouvelle musique brésilienne. Et c'est un peu ça, ce que tu dis, c'est la nouvelle cuisine française s'approprier de l'extérieur.
Exactement. Et la musique brésilienne, c'est marrant, mais de toute façon, on peut faire des comparaisons formidables entre la cuisine et la musique. C'est exactement ça. Les Brésiliens, ils ont la musique dans le sang. Mmh. Ils ont inventé plein de rythmes. Mais franchement, jusqu'aux années, fin des années 60-70, ça ne existe qu'au Brésil, dans les favelas et entre vous. Mmh. Ils s'approprient des musiques
rock,
du monde.
Du
les artistes brésiliens vont tourner dans le monde. Ils vont commencer à mixer et fusionner leur musique. Et dans les années 60-70, ils vont révolutionner la musique. Un mec comme Claude Nougaro, tout son répertoire, aussi bien musical, c'est la musique brésilienne. Mais c'est justement une mondialisation vertueuse. Et alors ça, c'est des pays émergents. Et c'est les pays émergents qui ont découvert la food, qui ont redonné l'envie à la France de revenir à quelque chose qu'elle trouvait ringard il y a encore 30 ans.
Très intéressant. Nous, on a en fait, il y a un truc qui tu dis souvent dans tes interviews. Tu parles que tu as une passion pour les restaurants plus que pour la cuisine, et tu parles souvent du restaurant comme du théâtre. En fait, tu fais cette analogie avec les théâtres. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de cette vision?
Ça, c'est quelque chose auquel je tiens terriblement. Le monde de la gastronomie ou de la food, vous l'appelez comme vous voulez, il est multiple, divers et varié. Alors en plus, quand t'es dans le prisme du journalisme, c'est comme tu peux t'intéresser à tout. Il faut s'intéresser à tout, mais tu peux pas être doué dans tout. Et puis t'as quand même, comment vous dire, c'est comme un passionné de sport. Tiens, on va prendre un mec qui lit l'équipe tous les jours. C'est mon cas. Bah l'équipe, moi je vais lire d'abord la boxe. Malheureusement, ils en parlent pas souvent. Le foot, le rugby, l'athlétisme. Un peu moins l'aviron. Ou un peu moins...
Comment?
Bon, dans la gastronomie, t'as l'univers du vin, l'univers des spiritueux, l'univers de l'alimentaire, l'univers de l'agriculture, l'univers de la botanique, du verger, du potager. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. L'univers de la cuisine, c'est-à-dire la recette, de la chose culinaire proprement dite. Et finalement, on s'aperçoit des chefs. Moi, ce qui me passionne, c'est un univers qui s'appelle le restaurant. Et le restaurant, tu t'aperçois que c'est une des choses les moins bien traitées en vérité. Dans le journalisme culinaire. Aujourd'hui, autour de moi, c'est tant mieux. Je vois beaucoup de journalistes qui parlent beaucoup de recettes, de produits, et tout ça, c'est tant mieux. Hein. De logique agricole ou alimentaire, de starification des chefs ou des foodistas. Mais qui parle vraiment de restaurant? Aucun. Moi, le restaurant, pour moi, c'est cette matrice qui m'intéresse. Le restaurant, je dis toujours, c'est une micro-société, c'est un petit théâtre. Et quand je fais une critique, la plupart de mes amis critiquent, et je le dis, c'est des amis, c'est intéressant ce qu'ils écrivent, mais j'ai toujours l'impression qu'ils ont le cou bloqué. C'est-à-dire, quand je lis leur critique, ils me parlent de l'assiette. Ouais. Et à la fin de la critique, et même les meilleurs, hein, même mes meilleurs amis, ils sont, pour moi, tous des très grands journalistes gastronomiques, et parmi les plus mauvais critiques que je connaisse. En France, il n'y a pas des bons critiques à part François Simon. Tous.
Il s'intéresse à l'assiette, pas au contexte.
Pour moi, un restaurant, et c'est pour ça qu'on va tous au restaurant, c'est d'abord un environnement.
C'est l'ambiance.
Une ville, un quartier, un paysage, puis un lieu avec un décor, puis un accueil et un service. C'est deux choses différentes, l'accueil et le service. Un rapport qualité-prix, créativité-prix, quantité-prix, une addition, bien sûr une cuisine. Et puis, une dernière chose qu'on oublie, un public, ce qu'on appelle une ambiance. Si tu n'es pas capable de raconter ça, eh bien, t'es pas un bon chroniqueur gastronomique. T'es un chroniqueur culinaire. Mais alors, si t'es un chroniqueur culinaire, écoute, ne va pas au restaurant. N'emmerde pas ta rédaction avec des notes de frais insensées. Fais Parle-nous des produits, parle-nous de la carotte, du cri de la langoustine au moment du courbouillon. Parle-nous de tout, mais pas de restaurant, puisque vous n'en parlez pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette matrice-là. Il y a dernièrement, un éditeur, je fais un appel aux éditeurs, me demandait, vous voulez pas faire un dictionnaire sur la cuisine à la gastronomie? J'ai dit, ah non, ça non, je laisse ça à mes petits copains, je l'ai déjà fait, ça m'intéresse pas. Par contre, j'aimerais bien vous faire un dictionnaire amoureux des restaurants.
Sur le lieu, les restaurants, l'ambiance.
Là, il dit, ah bon, vous croyez? Je dis, ouais, je vous ai pas dit un guide. Mais les restaurants, c'est comme le théâtre. C'est exactement la même chose.
Chaque jour, tu as une pièce, une exécution
fragile,
qui est différente, en fait.
C'est difficile à appréhender parce que tu dois remettre chaque jour, midi et soir, la même scène. Mais souvent, les gens de théâtre, j'en ai interviewé beaucoup, disent, le théâtre, tu peux le lire. Ça reste lisible, le théâtre. Mais quand tu vas au théâtre, et les acteurs te le disent, si en hiver, tu joues pas comme en été. Si dans la salle, tout le monde tousse, ça va imprégner ton jeu. Et puis, si l'acteur, même s'il se transcende, il a perdu son papa la veille, il va falloir qu'il joue, mais ça va jouer. Le restaurant, c'est pareil. Donc, il faut... c'est ça qui m'intéresse. Et puis, le restaurant, souvent, les gens ils disent, ouais, vous savez pas cuisiner, vous êtes pas cuisinier. Je dis, ben non, mais ça, on reste chez soi, alors. Le restaurant, c'est aussi le vertu de choisir, d'avoir un menu, c'est-à-dire de choisir... C'est pour ça que j'aime pas les menus uniques aujourd'hui. Au restaurant, ce qui te t'éblouit quand t'es gamin, c'est que t'as le choix. Chez papa, maman, bah t'as ce que maman aura décidé. C'est toute cette mécanique là que j'aime raconter. Et moi, je trouve que c'est une vraie culture, le restaurant. Et ça appartient à l'univers de la gastronomie. C'est un univers qui me passionne en soi. Et j'en ai pas fait le tour. Par exemple, je suis pas très bon dans l'univers du vin. Je suis pas mauvais parce qu'à la force de pratiquer, mais il faut s'imprégner du vin, c'est un boulot énorme. Faut avoir une mémoire olfactive, une mémoire des cépages, des terroirs. Alors tout ça m'intéresse, tu dois avoir un bon niveau partout, mais à un moment donné, tu dois quand même avoir une passion. Et moi, c'est les restaurants. Moi, le vin, moi, l'agriculture, ça m'intéresse, mais sans plus. Je suis pas capable, comme mon ami François Régis, de disserter pendant 2 heures sur le radis. Mais je trouve qu'il le fait fabuleusement bien.
Bien sûr,
c'est nécessaire, c'est utile. On est complémentaires.
Tu as une grille des lectures, en fait, quand tu arrives dans un resto, est-ce que tu rationalises un peu? J'ai dit, ok, bah, l'accueil, ça vaut tel point, ou est-ce qu'il y a une approche un peu plus rationnelle?
Non, c'est quasiment instinctif. Alors, c'est une grille de lecture, oui. Parce que t'as tout ça, tout ce que je viens de dire,
tu l'as. C'est ça, c'est tes critères.
Par contre, moi, je ne mets pas de points. D'accord. Mais il y a une grille de lecture instinctive. Et tu sais qu'un restaurant, comme je viens de l'expliquer, tu dis, c'est un tout. Donc, je vais essayer de raconter ce tout-là, sans mettre des points. Parce que c'est intéressant d'ailleurs, tu t'aperçois parfois, il faut quand même que l'assiette est un niveau ad minima. Ça, si l'assiette est entre guillemets dégueulasse, c'est fini pour quel que soit le restaurant. Mais si elle a un niveau juste propre, correct, et que soudain c'est rattrapé par une ambiance, un service, un quartier, un paysage, alors tu peux faire une bonne critique. D'ailleurs, c'est aussi un autre bouquin sur lequel je travaille, c'est les genres des restaurants. Regardez, je vais vous dire. Et vous allez tout de suite comprendre. Bistrot, brasserie, bouillon, izakaya, estaminet, machon, fast-food, cantine, garni, buffet de gare. Vous voyez bien qu'il y a des genres de restaurants.
Il y a une promesse.
Bouchon, ouais.
Mais c'est bien sûr, comme quand tu es sur Netflix. Tu vas choisir ton film. Action,
comédie,
western,
voilà.
Film noir. Le restaurant, c'est pareil. Et donc, tu dois déjà... Et ça, c'est très simple. Et moi, ce que je reproche, c'est le manque de culture de l'ensemble des gens qui s'attachent à la critique gastronomique, ou en tout cas leur manque de réflexe. Parce qu'effectivement, moi je peux mettre et juger très haut un estaminet. Et je peux même lui mettre, puisqu'il y a une espèce de note, 3 cœurs, mais rapporté à ce qu'il est. 3 cœurs à une pizzeria, parce que dans son registre de pizzeria, elle est excellente. Et puis, je peux démolir une pizzeria. Tout comme un grand restaurant qui a ses codes, parce qu'il va servir des produits nobles, parce que t'auras une brigade en salle, en cuisine, des fourchettes à 10 dents, une moquette triple assesseur, il peut avoir une très bonne note, mais dans son registre de grand restaurant, dire, mais il a beau me servir des langoustines, avoir des cloches en argent, il est nul. Donc, c'est ça qui te fait une grille. C'est ça qui commence à construire une critique gastronomique.
Comment tu t'organises justement aujourd'hui, d'ailleurs, le Figaroscope, on y reviendra après, c'est qu'une partie de ton activité. Tu visites combien de restaurants par semaine? Comment tu t'organises?
Moi, c'est très simple. Je travaille d'abord et surtout pour le Figaroscope. J'ai 2 rubriques et dans lesquelles je dois faire 6 restaurants.
Ouais.
Donc ma semaine, elle est 6 restaurants par semaine.
Tu fais ça toujours avec quelqu'un, tu fais pas jamais ça tout seul.
Là aussi, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il faudrait comprendre l'économie de la critique. Moi, j'ai de la chance, mais vraiment de la chance, de travailler pour un grand titre qui est le Figaro, qui a toujours accordé une place historiquement à la gastronomie. Pourquoi ? Parce qu'il a un public qui aime la gastronomie, et en plus que la gastronomie, c'est un public qui considère le restaurant comme une sortie culturelle. Le Figaro Escape a été créé pour ça. On parle de l'opéra, du cinéma, du théâtre, des arts, des expositions et du restaurant. C'est une sortie. Donc, le public du Figaro a une culture du restaurant. Et donc, le Figaroscope te donne ces moyens-là. Il te donne ces moyens en te réglant, en te permettant de régler ton addition.
Donc, tu payes l'addition. Parce qu'en
fait, et eux, ils te remboursent en note de frais. Ce qui est, ce qui est pour moi le juge de paix d'une vraie bonne critique. Et en plus, le Figaro a ce... J'espère que ça va durer encore un peu, parce que l'économie est quand même compliquée actuellement. De dire, on ne va quand même que très rarement seul au restaurant. En vérité, on y va au moins à deux. Donc, vous irez à deux. Pour vous mettre dans la peau du client. Être au plus proche de la réalité du restaurant. Et à deux, t'es déjà proche. Et puis à deux, ça te permet de tester déjà six plats.
Voilà, pas pragmatiquement, tu as accès à plus de plats que
exactement.
Si j'étais tout seul.
Donc,
quoi.
Moi, j'ai une chance énorme. Mais je comprends que l'économie des médias n'y soit plus. Et aujourd'hui, pour pouvoir payer ses notes de frais, pour pouvoir aller au restaurant, quasiment aucun média ne peut le faire. Et donc, aujourd'hui, et c'est pas une critique, c'est juste que quand tu fais de la critique gastronomique, t'es un peu contraint à accepter les invitations des attachés de presse, des dîners de presse, pour pouvoir donner une information, certes, mais pour faire une chronique, certainement pas. Et c'est pour ça que je désavoue 90% de mes collègues.
Ouais, c'est pas la même
ils
approche.
Ils sont mauvais. Pas de leur faute, mais parce que ils ne sont pas dans la réalité de la critique gastronomique. Tu dois être au plus proche du client. Ils ne peuvent pas parce que l'économie n'y est plus.
Ils n'ont pas les moyens.
Ils n'ont pas les moyens.
Ils n'ont pas cette liberté.
Et,
ouais.
Et je vais vous dire, c'est Camas, Alexandre Camas, qui avec lequel j'ai monté le Foodie.
On va en parler.
Ouais, mais il m'avait dit, Emmanuel, si un jour tu perds le Figaroscope et le Figaro, est-ce que tu continueras d'être critique ? Je dis bah non, ça s'arrête parce que j'ai plus les
t'as
moyens.
T'as pas les moyens de payer.
Ça ne m'intéresse pas d'aller au déjeuner de presse, au dîner de presse. Non pas que je le critique, mais je peux pas faire mon métier. C'est d'abord, excusez-moi, mais quand t'es invité, tu peux pas dire du mal.
Ouais.
C'est impossible. C'est terminé. Moi, quand je suis invité chez des amis, bon, bah, je vais pas dire, non, ta femme, elle a merdé. Non, j'ai été une bonne éducation. Et deux, je suis pas dans la peau du client, donc je ne le ferai plus. Ce métier s'arrêtera. Et c'est pour ça que quand on a créé le Fooding, on a repris les grilles de lecture installées par François Simon, le Figaroscope et les Anglo-Saxons. Ad minima. Et première chose, on paye notre
paye l'addition. Voilà.
Point barre.
Mettons les Fooding stand-by, parce qu'on va revenir à tout un chapitre autour du Fooding. On a une question, parce que on trouve assez intéressante, c'est un lien avec ce que tu viens de dire. C'est par rapport à ta relation avec les restaurateurs et les chefs, parce que, en fait, tu viens, moi, je suppose, que c'est un peu difficile pour toi de nourrir des relations très proches avec les chefs, si dément tu viens juger son restaurant. Et surtout, j'ai une petite question qui est au coin de ma tête, c'est est-ce que ça t'arrive d'un restaurateur, d'un chef d'être appelé pour dire putain, j'aime pas du tout la critique que tu as écrite, est-ce que tu peux la changer?
Ouais, alors deux questions en une, mais juste. Ouais. Alors la première chose, non mais c'est bien. La première, c'est que effectivement, il y a encore 15 ans, moi j'allais en plus de payer mon addition au restaurant Incognito. Donc ça, c'est le bonheur.
C'est à l'anglo-saxonne, ça.
Ouais. Non, ça, c'est le bonheur. C'était les plus belles années. C'est jouissif.
Ça marche plus aujourd'hui.
On connaissait pas
alors,
ta tête, quoi.
Les chefs te
deux choses. Ouais. D'abord, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour quiconque à cause des réseaux sociaux. Et à cause d'une génération de chefs qui est complètement maqué avec les réseaux sociaux. Ouais. Ils te googlisent, mais comme dans la vie active. Donc, aujourd'hui, même le dernier des jeunes petits critiques qui se lancent, il va être vite googlisé. Et donc, l'incognito, il n'existe plus. Vraiment. Alors, dans mon cas, moi... avec les choix de carrière que j'ai fait, la télé, la radio et d'autres choses, des conférences, tu le démultiplies. Je ne suis, en tout cas, pas quand je suis à l'étranger en province, je suis totalement incognito. Comme quoi, faut relutiliser les notoriétés. Ça ne sont des notoriétés gastronomiques, c'est-à-dire moi, on m'arrête pas dans la rue. Hein. Tant mieux d'ailleurs. Mais au restaurant, oui, je me fais calculer direct. J'ai beau réserver sous pseudo, mais sachant, donc ça, je le regrette un peu.
Tu sens tout de suite que t'as un traitement de faveur,
non,
forcément.
Non, il n'y a pas de traitement de faveur. Parce que les chefs connaissent bien le Figaroscope et savent qu'il faut pas nous faire chier et que ça marchera pas parce qu'on va régler un truc. Ce que je veux dire, c'est que je regrette d'avoir un peu perdu cet incognito, mais que le vrai juge de paix, c'est l'addition. Mais je regrette quand même, comme vous le dites très bien, j'aurais préféré rester incognito, mais bon, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Alors, quand t'as un peu de notoriété, c'est quasiment fini, mais même quand on n'a pas, avec les réseaux sociaux et une génération de chefs qui est complètement connectée, c'est terminé. Donc, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Après, les relations que je peux avoir avec les restaurateurs, c'est très juste ce que vous dites. Jusqu'à présent, moi, j'ai une carrière de journaliste et je suis directeur des rédactions d'un groupe de presse dédié plus à la mode et au lifestyle. 90% de mon activité journalistique, finalement, aura été dédiée à la mode, à la culture, au sport, et très peu à la bouffe. C'était 10% de mon activité. Mmh. Mais l'image portée, c'était la gastronomie. Mmh. Et donc, j'ai eu la chance d'orchestrer des rédactions dans mes titres. Et donc, je pouvais demander à mes journalistes, dire, on va travailler la chose culinaire, mais moi, je ne ferai pas ni de portrait, ni d'interview, très peu de portraits, très peu d'interviews, très peu de reportages, très peu d'enquêtes. Je ne fais que de la critique. Au Figaro, on a la chance d'avoir aussi une équipe. Je suis pas tout seul. Prenons le Figaroscope, on est 3-4, Alice Bozio, Hugo de Saint-Phalle, parfois Durand Soufflant. Ils vont orchestrer des portraits, des interviews, des enquêtes, des reportages. Moi, je ne garde qu'un genre journalistique qui est celui de la critique et de la chronique. Donc finalement, à part quelques chefs que je connais, je ne copie pas trop avec eux. Ils me connaissent, mais moi, je n'ai pas passé 14 heures en interview. J'ai pas fait un reportage pendant 8 jours dans leur restaurant. Je ne fais que la critique. Quelques chefs sont devenus des vraies relations. Et là, c'est toujours délicat, mais ça m'a pas empêché de leur mettre une valse. Et j'ai de la chance d'être des chefs intelligents, Fréchon, Candebord, Lignac, je peux en citer, mais pas plus de 6-7. Les autres, Guy Savoy, il me connaît, je le connais, mais on n'a pas copiné, je l'ai jamais interviewé. Et si demain je vais dans un restaurant, je peux en dire du bien, du mal.
Mais tu sens pas que justement qu'ils essayent de t'influencer, de faire copain, ou ils savent que ça vaut pas, ça, alors, pas la peine d'essayer avec toi.
C'est quelque chose que les chefs. Ouais. Faut être deux pour lancer la valse. Ouais. Les chroniqueurs et les journalistes gastronomiques, pour des raisons aussi qui sont celles de leur économie, adorent devenir copains avec leur chef. Ça devient presque classe d'avoir le 06 de Cyril Lignac. Ouais. Faut pas l'oublier. Mm-hmm. Puis les chefs adorent ça. Ouais. Faut pas oublier que les chefs, c'est des malins. Ils disent, on est malheureux avec la critique, mais ils sont bien contents qu'elle soit là. Moi, parce que mon parcours est celui qu'il est, parce que je pense que j'ai été l'un des lieutenants de François Simon, parce que je viens du Figaroscope, parce qu'on a créé le fooding qui a des méthodologies assez strictes, ils m'emmerdent pas. Ouais. Ils savent que ça sert à rien. Ils en ont même, ils ont pas peur de moi, mais on est à bonne distance. Mais c'est l'histoire d'un parcours, hein.
Et je change un peu des sujets. Hier, on écoutait une émission On va déguster, donc avec François-Yves Gaudry de 2014, où on parlait de la photo au restaurant.
Ah ouais. Et c'est la seule que j'ai faite. Hein. Ouais. C'est la première et la dernière fois qui m'a invité. Il m'a dit, vaut mieux pas t'inviter.
Ouais.
Il avait raison d'ailleurs.
J'ai envoyé à Philibert, j'ai dit Gaudry plus Ruban. C'est un moment de pour ceux qui s'intéressent à la
présent, écoutez, c'est clair.
Ouais, c'est des stars de la critique gastronomique. Mais ce qui était intéressant à l'époque, c'est que tu avais un avis assez tranché par rapport à la photo au restaurant. Et nous récemment, on a découvert donc ton compte Instagram, donc Emmanuel Ruban Pro, où on a découvert des photos au restaurant.
Alors,
donc on voulait savoir un peu comment ça a évolué ta vision par rapport à ça.
Je ne retire rien. Je pense que l'Insta Food, je comprends pas. Je continue de pas comprendre. D'ailleurs, on parle de food porn. Mm-hmm. C'est pas moi qui ai baptisé ça. C'est eux-mêmes qui ont fait
le mot horrible. Hein, on est
faut quand même c'est comprendre. Je trouve ensuite que et on le voit. Hein, d'abord, qu'est-ce qu'ils cherchent en faisant ça? L'argument qu'on m'avait opposé à l'époque sur ce débat-là, c'était de dire, mais on peut quand même avoir un souvenir de ce que l'on fait. Bah oui, on peut avoir un souvenir. T'es pas obligé de le partager à la terre entière. Il y a un côté ego trip que je ne comprends pas. Ensuite, dans les manières de table, ça devient dingue. On voit des gens qui ne parlent plus à table, qui ont leur portable, qui passent leur temps à shooter des plats. Au risque que ces plats se refroidissent.
Oui, c'est ce que je disais dans l'interview.
Les restaurateurs en ont ras-le-bol. En plus, la plupart ont un talent à peu près proche d'une huître en termes de photos. On ne comprend pas. Certains essayent de monétiser ça. Faut pas le rêver. C'est quand même toute la génération influenceur. Oui, je vais te ramener du monde. Ils ramènent personne dans les restaurants. Donc, je continue de savoir et de pas comprendre ça. Alors, pourquoi? Dernièrement, j'en ai fait un. Parce qu'à l'époque, j'ai fait une nuance, dis, de deux choses l'une. Soit tu dis, soit t'es crédible. Et c'est-à-dire que moi, j'ai rien contre Instagram, c'est un médium. Et soit tu l'utilises comme un média, c'est-à-dire un support. Mais là, faut être, avoir une activité vis-à-vis de ça. Moi, mon métier, c'est d'être critique gastronomique. Je suis pas, moi, par exemple, sur, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment mon métier et que il est éditorialisé, mon site. Je ne parle que de restaurants. Je ne montre que des photos de restaurants. Il n'y a pas mon fils. Il n'y a pas mes filles. Il n'y a pas ma femme. Il n'y a pas mes vacances au Maroc. Il n'y a pas mes, regardez, la plupart des insta-foodeurs, ils nous montrent, quand c'est les filles, elles nous montrent, je caricature un peu, mais leur vernis à un ongle. Les mecs, ils me disent, je suis en photo avec le chef. Ça, c'est de l'ego trip. Ça n'a aucun sens. C'est pas du tout un souvenir. C'est regarder comme je vis et comme ma vie est belle. Moi, j'ai mis longtemps parce que je n'en avais pas l'utilité. Aujourd'hui, parce que mes médias le demandent, c'est devenu un média important. Et j'ai dit, je l'accepte à une seule condition, de l'éditorialiser. D'abord parce que je suis crédible par mes médias, par mon métier, par mon expérience et parce que mon Instagram ne parle que de restaurants et qu'il est nourri aussi parce que j'ai accès à l'actualité, à l'information. Moi, je suis pas là à dire, ah, tiens, j'étais au restaurant, un truc. À chaque fois que je poste un truc, c'est un nouveau restaurant. Et mon métier, c'est l'actualité, l'information. Donc, tant que ce médium est éditorialisé et professionnel, et c'est pour ça que j'ai appelé Emmanuel Rubin Pro, pour le reste, je comprends pas. Moi, j'ai pas d'Instagram personnel.
Bien sûr.
J'en ai pas. Alors, je pourrais même en avoir un, il sera en privé. Mais moi, quand je vois la plupart des Instagram, qu'est-ce que tu veux que j'en ai à faire que de ton fils et le lendemain que tu sois, en train de me dire que t'as un grand avis sur les restaurants?
Ça
c'est de l'égoterie, j'aime pas.
Ça mérite d'être clair. Est-ce qu'on peut parler maintenant d'un autre aspect de ta vie qui est important, c'est le fooding, justement. Tu peux nous expliquer comment c'est venu et...
Le fooding, c'est venu exactement un petit peu pour reprendre ce qu'on disait après. Je rencontre un garçon qui s'appelle Alexandre Camas. On a à peu près le même âge. Lui, il travaille à Libération et à Nova, qui sont des médias, on va dire, un peu plus inattendus sur la gastronomie, si ce n'est un peu alternatif pour Nova. Et on va dire, allez, pour caricaturer, à l'époque, c'est encore très marqué, un peu de gauche. Moi, je suis du Figaro, Figaroscope, un peu de droite, et très bourgeois. Et tous les deux, une vraie passion pour notre métier de journaliste et pour la gastronomie. Pour la petite histoire, lui, c'est un fils de Bougnade, à Véronais. Hein. Ses parents avaient des bistrots à Paris et à Lyon, je crois. Donc une vraie passion. Et puis cette passion partagée, on se dit, on observe l'époque. Et on est à la fin des années 90, on dit bon sang, mais regardez ce qui se passe à Londres, à Barcelone, il y a une émergence de nouveaux chefs, une énergie mondiale de la gastronomie. Et dans le même temps, on voit à Paris notamment l'émergence de nouveaux genres, des néo-bistrots, des restaurants avec des décors, avec des designers qui investissent. Et on se dit, c'est marrant, il y a une nouvelle génération de chefs. Il y a un public, donc une nouvelle génération de public de mangeurs, d'hédonistes qui sont prêts à suivre. Et il n'y a pas de médias pour les accompagner. Et nous, on se dit, c'est marrant, il se passe beaucoup de choses. On rentre dans les années 2000, il y a une nouvelle passion, une passion retrouvée pour la chose gastronomique. Et notre rôle de journaliste, c'est de dire, et sinon on l'accompagnait, on l'a pas créé. Mais c'est nouvelle génération de chefs, nouvelle génération de mangeurs, nouvelle manière de table. On sent que les restaurants changent. C'est aussi une génération qui va zapper. Si on va essayer de l'accompagner, et on fait nos papiers, et puis...
Et pragmatiquement, juste pour que je comprenne, en fait, toi tu étais au Figaroscope, jaloux, tu avais plein de jobs, droite
et
à gauche.
Alexandre
comment
aussi.
Comment tu dégages du temps pour bosser?
Alors,
ça, c'est un projet parallèle.
Et avec Alex, pareil, il travaillait beaucoup, et on se dit... Ben, en fait, nos médias étaient très frileux, que ce soit tous. On
ils
leur parlait de ça.
Ça
ils comprennent pas, ils disent, ben non, on comprend rien ce que vous dites.
Mais il n'y a pas
nouvelle génération.
En fait, ils ont pas.
Ah non, nous, on était des freelances. Donc, ils nous disent, on comprend rien ce que vous dites. Qu'est-ce que vous nous parlez de nouvelle génération de chefs, d'émergence d'une nouvelle gastronomie, de nouvelles manières de table? Ils comprennent pas. Et là, avec Alex, ils disent, ben, puisqu'ils comprennent pas, on va essayer de le faire nous-mêmes. Et, on se dit, Alexandre a inventé ce mot fooding au hasard d'un papier à Nova. Et le mot a buzzé.
Qui est quoi? Food plus feeling.
Food plus feeling. En fait, il était parti, dit, la nuit est morte à Paris. Le clubbing est mort, vive le fooding. Aujourd'hui, les gens sortent au restaurant. Plus que dans la nuit. Et le mot va buzzer. Et donc, on se dit, on a trouvé un mot, ça sera notre meilleur ami et notre pire ennemi, parce qu'il va falloir l'expliquer, mais on va s'en servir. Et autour de ça, on va créer notre propre structure, qui était d'abord une association. On va continuer notre travail journalistique. On va voir s'il y a des gens qui nous suivent. Et puis, on va en parler de différentes manières, c'est-à-dire avec des nouveaux médias, toujours la presse, mais aussi les événements. L'événement est un média comme les autres. On va créer une semaine du fooding, totalement... déjanté, où en 99-2000, on sert des soupes par des grands chefs dans tous les marchés de Paris, on fait des soirées ouvertes au public gratuites, on met un peu de pop et de rock'n'roll, on prend les codes de la pop culture, qui est notre génération, appliqués à la chose gastronomique. Et ça prend.
Vous faites ça tous les deux, non? J'ai la
tous les
ça,
deux
vous
au début,
organisez un peu,
et on a la chance... que Alexandre ait une grande relation avec Jean-François Bizot, qui est le patron de Nova et d'Actuel, qui ne connaissait rien à la bouffe, par contre, qui était un grand journaliste et qui est surtout un grand journaliste qui sentait les générations et l'époque. Il dit, je comprends rien à la bouffe, mais vous deux, vous m'intéressez. Ouais. Alors, je vous accueille à Nova. Ouais. Je vous donne un bureau, une photocopieuse, tout ça. Et on va sortir un hors-série. Food pour la première fois Nova, il mangeait que des kebabs.
Qui s'appelait Fooding déjà
s'appelait,
ou Nova
Food. Ça s'appelait Boire et manger en 99.
Boire et manger, voilà, on a vu ça, ouais.
Et en 2000, il devient Food et Feeling et en 2001 Fooding.
D'accord.
Et en parallèle, on développe nous avec Alex, avec l'aide de Jean-François Bizot et de plein de gens. Nous c'était le noyau dur et puis après c'était un noyau tendre parce qu'on voulait pas que ça s'appelle Rubin Camas. Mm-hmm. Ça, on en avait marre des Champérard, des Pudelot. On s'est dit, des Goemio, on veut pas l'incarner. Il n'y a pas de manifeste, c'est un anti-manifeste. Nous, on va créer une sorte de laboratoire où toutes les passionnés, toutes les envies, les design, les chefs, les journalistes, les directeurs artistiques, les illustrateurs, les photographes, les designs culinaires ont le droit de s'exprimer. Là, c'est déjà du slashing. Mmh. Et on va essayer de créer une espèce de laboratoire à ça. Aujourd'hui, ça paraît évident. Je peux vous dire qu'en 99-2000, ça n'existe pas. Et Nova va nous aider via Bizot à faire ça. Et ça prend... Alors, on se fait quand même vraiment démater par les vieux barbons. Mmh. Mais il y a quand même une génération. Et
ça prend.
Qui s'apprend. Ouais. Moi, je dis toujours, je me retourne pas trop sur mon parcours, je m'en fous un peu, on verra la suite. Mais avoir écrit des critiques gastronomiques avec des journalistes, avoir fait des émissions de radio, de télé, des guides, on s'en fout un peu des livres. Il y en a plein avant moi, plein en même temps que moi et mieux que moi, et plein après moi et encore mieux que moi. En revanche, j'ai une chance énorme et je le dois à Alex Camas. Et je trouve que c'est la vertu du fooding. C'est la plus belle histoire qui me soit arrivée. J'aurais jamais imaginé que, à ma petite mesure, j'aurais accompagné une sociologie. Et je suis désolé, mais le fooding est quelque chose qui a bousculé les codes de la gastronomie. Aujourd'hui, la gastronomie, si elle est là, c'est en partie grâce au fooding et d'avoir accompagné une sociologie d'époque. Il n'y a pas plus beau cadeau pour un journaliste. Et même des gens qui sont plus brillants, qui sont vraiment les boss de la food que j'admire, je dis, vous n'avez pas cette chance et peut-être vous ne l'aurez jamais. Moi, je suis nettement moins brillant que les autres, mais ça, avec Camas, je dis, c'est unique.
Et, mais la question qui vient à la tête, parce que quand tu parles de fooding avec autant d'émotion, c'est que tu es très attaché au fooding. Pourquoi tu quittes les foodings, en fait? Comment ça se fait?
Vous savez, moi, je suis très cash. Quand j'ai créé le fooding, Alexandre et moi, on est complémentaires. On a plein de valeurs en commun, mais on est très différents. Et j'arrêtais pas de dire, il y avait un côté très rock'n'roll quand même. Aujourd'hui, ça paraît très couillon de dire rock'n'roll, mais appliquer le mot rock'n'roll à gastronomie en 99, c'est moderne. Aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que tous ceux qui l'emploient, j'ai envie de m'inscrire en contre. Ça aussi, c'est rock'n'roll. Mais moi, je disais toujours à Alex, bon, on crée un mouvement, mais il faut savoir le suicider, parce que ça va lasser. Et puis, c'est comme les groupes de rock. Un jour, on se séparera. Et puis, effectivement, à bout de 9 ans, on avait bien développé le fooding, mais on était deux chefs. Sauf qu'Alexandre a mis toute son énergie. Mais quand je dis toute son énergie, vous savez, c'est y compris son économie, sa vie quotidienne au fooding. Moi, je voulais garder mon activité pure et dure journalistique au Figaro et aux éditions Jaloux, où je développais des titres de lifestyle. Et donc, j'y étais moins. Et quand tu commences à monter en puissance et qu'il y a deux chefs, et qu'il y en a un qui est moins présent, en l'occurrence moi, il fallait qu'on soit très amis, on l'est encore, à un moment, il s'est dit, Alexandre m'a dit, Emmanuel, tu y es moins. Ça a duré 10 minutes, c'est un divorce fabuleux et à l'amiable.
Ça s'est fait.
J'ai dit,
bon terme,
t'as raison, on peut pas avoir deux chefs, j'y suis moins, je vais quitter le foodie. Il se trouve que il y avait aussi en plus des petites après, des petites querelles, qui n'étaient pas des petites querelles. Moi, je le vois comme ça, et lui le voyait comme ça. Mais comme c'était lui le boss et qu'il était quotidien, il était normal que je me retire. Et puis, je vais être très honnête pour la petite histoire. Je suis tombé amoureux d'une fille qui travaillait au fooding qui s'appelle Elvira Masson. Et ça devenait, et on avait envie avec Alex, Elvira. Moi, surtout avec Elvira, j'avais envie qu'on vive notre vie hors le fooding parce que je dis, je veux pas mélanger le boulot et le truc. Donc, il y avait tout un tas de petites conjonctions très vertueuses, très heureuses. On est tous très potes, toujours très amis. Nos carrières se sont séparées comme ça. Ça s'est très bien passé. Beaucoup de gens ont dit il est fâché, pas du tout. La preuve, vous savez, moi, la meilleure preuve, je devrais pas le dire parce que je suis assez pudique, mais moi, Alex, je sais pas, il m'invite constamment au braque chez lui et on parle de tout sauf de bouffe, quoi. On reste, on n'a pas sacrifié notre amitié au nom du fooding. Et je suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils font, mais globalement, bien sûr que oui. Et je trouve qu'ils ont la main et je les admire. Ouais.
Qu'est-ce que tu penses justement du rachat du fooding, enfin la prise de participation du fooding par Michelin?
Alors bien sûr, Alexandre s'exprimait là-dessus plus que moi. Vu comme ça et comme moi je l'ai vécu un peu, j'étais pas
c'est
du tout
extérieur, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue justement.
C'est un peu le mariage de la carpe et du lapin, sauf que on va être basique. Vous savez, c'est comme un restaurant, un chef, il a beau être un chef, il a un restaurant, c'est aussi un commerçant. Le fooding montait en puissance. Alexandre veut le faire monter en puissance, lui donner plus de moyens, notamment à l'international, pour se aussi multiplier ses activités, pourquoi pas vers des nouveaux médias. Je sais qu'ils ont des projets de séries télé, tout ça. Ouais. Faut des moyens pour tout ça. Il était en montée en puissance, le fooding, en gestion de croissance. Faut passer la vitesse 3. Si t'as pas les moyens derrière, tu peux pas. Et trouver un investisseur qui te désavoue pas, qui t'abîme pas.
Aligné.
Soit pas une marque qui t'abîme pas. Et ben, en fait, il y en avait pas beaucoup. Et paradoxalement, nous, on a beaucoup lutté avec Alex contre le Michelin, en lui disant, faut bouger. Autrement, vous êtes un grand titre, on veut pas vous voir disparaître, mais soit vous révolutionnez, soit pas. Moi, je pense que le Michelin, c'est pas encore révolutionné. Mais, il a quand même changé le Michelin.
Ouais.
Et je pense qu'ils se sont entendus, mais c'est à lui de répondre, en disant le Michelin a besoin d'une avant-scène, en tout cas d'une jeune garde, d'un espèce d'accélérateur de particules. Et de la même manière, avec une marque française qui est Michelin, le fooding avait besoin d'une assise financière. Mmh. Et je tiens à dire, fidèles d'Alexandre et du fooding, c'est en toute transparence qu'ils l'ont dit. Mmh. Et je pense que oui, il n'y avait pas d'autres marques. Et il y avait ces deux grands guides. Après, j'allais dire 20 ans, non pas de combat, mais de combat, si vous voulez. Il y avait une paix des braves pour aller à la suite et se dire, bah, maintenant, on va travailler ensemble. Mmh. En fait, c'est plein de logique. Même si, au premier chef, au premier plan, ça peut, paraître comme, l'argument de la carpe et du lapin. Mais tous ceux qui disent ça sont des gens qui ne réfléchissent pas. Mmh. Alors, moi, j'y suis pour rien, mais je pense qu'Alexandre réfléchit.
Et on a une question. Bah, notre podcast, il s'appelle Business of Bouffe. Donc, on s'intéresse forcément à la partie business du truc. Est-ce que tu étais actionnaire du fooding après ton départ? Donc, finalement, tu as touché, des départs à la France.
Ah, ben,
donc, pour toi, c'était une bonne opération.
Alors, d'abord, avec Alexandre, nous, quand on a lancé le fooding, on y a quand même mis notre argent.
Bien sûr.
C'est pas gagné. On aurait pu tout perdre, c'est comme ça. Mais, lui est avéronais. Moi, je suis à moitié juif. Donc, caricature, mais, tu te dis, on n'est pas là pour perdre l'argent non plus, hein. Et puis surtout, on est fils de nous, on croit que tout travail mérite salaire.
Mmh.
On a toujours payé les gens, payé nos additions. Et puis surtout, je dis, il n'y a pas de raison de faire quelque chose pour pas en gagner sa vie. Mmh. Et donc, on s'est dit, bah, on va essayer de gagner notre vie. Et donc, oui, les deux premières années, on n'a pas pu se payer. Je dois avouer que la troisième année, on s'est payé. On a créé une société avec une structure de société. Moi, j'étais actionnaire. Quand je suis parti, j'ai revendu mes parts et j'ai touché de l'argent que j'ai dépensé immédiatement. Alors qu'Alexandre le place beaucoup mieux que moi. Mais oui,
on va essayer. Tu vas nous aider à choper Alexandre pour qu'on puisse l'interviewer.
On a aucun problème. Bien sûr que on voulait gagner. Enfin, on voulait que ça soit viable, que ce soit rentable, qu'on vive de notre passion et de ce qu'on a fait. Bah, si tu vis de ta passion, faut bien que ça soit rémunéré.
Bien sûr.
Et moi, j'ai touché de l'argent. Et puis quand j'ai revendu mes parts, j'ai touché de l'argent que j'ai perdu. C'est ce qu'on reproche aussi à ce milieu-là. C'est ce milieu un peu ringard, d'omerta, qui dit les chefs continuent de dire on gagne pas beaucoup. Alors arrête. honnête, vous êtes, certains ont du mal, ouais. d'autres mmh. souffrent beaucoup, et puis ils gagnent ouais, beaucoup d'argent, ils ont du mal à ouais. le dire. Mais bah, monsieur Ducasse, vous êtes plein aux as, faut le dire, faut pas avoir peur, arrêtez de nous dire, on vous êtes encore un bon paysan. Vous avez gagné le bon sens paysan, mais aujourd'hui, vous êtes une star du business.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup des passionnés, et nous, avec notre parcours, on y trouve beaucoup d'entrepreneurs dans la bouffe, qui gagnent pas beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, je crois que c'est une minorité qui arrive à gagner de l'argent dans la bouffe, parce que c'est un milieu qui attire les passionnés.
Bien sûr, ces gens-là, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Je leur souhaite d'en gagner, parce que ça voudrait dire que leur boîte en marche. Alors, ils en gagnent pas beaucoup aujourd'hui. Et nous, ce qu'on voulait, on peut gagner de l'argent et pas perdre de sens, c'est pas antinémique. Si on avait voulu gagner beaucoup plus d'argent, peut-être que au moment de mes études ou au moment de ma carrière journalistique, j'aurais choisi banquier. Bah nous on a quand même choisi un autre métier qui est pas un métier qui était déjà sinistré hein les médias dans les années 90 oui. encore plus quand tu voulais te lancer dans la bouffe. Oui. Voilà, moi je pense que tous les gens qui gagnent pas beaucoup d'argent aujourd'hui d'abord bravo à eux, ça veut dire qu'ils sont viscéralement passionnés mais en même temps ils montent des entreprises, mm-hmm. un business, ça veut mm-hmm. dire qu'ils veulent en gagner et je leur souhaite d'en gagner, ils n'ont pas de honte à en gagner et c'est même doublement vertueux quand tu gagnes de l'argent, c'est-à-dire que tu crées du business et que tu n'as pas perdu ton sens et ta passion. Ouais. Là-dessus, j'ai été verni. Vraiment verni.
Mmh. Bah, je suis 100% d'accord avec toi.
On parlait du Michelin, donc c'est très tentant, bah, puisqu'on t'a en face de nous, d'avoir ton point de vue justement sur l'évolution du Michelin et notamment ta réaction sur ces chefs qui aujourd'hui rendent leurs étoiles, donc Lignac, les bras.
Ouais, alors là, je vous avoue, ouais. Moi, les chefs, je les aime beaucoup, mais je les trouve, c'est quand même des super girouettes. Hein. Ouais. Tourneurs de tablier. Alors, globalement, ce que je veux dire, c'est que pas Michelin, il est à la croisée des chemins. Michelin, c'est l'histoire d'un guide fabuleux, qui est une institution que je ne veux pas voir disparaître. Simplement, Michelin, jusqu'à la fin des années 90, c'est l'empereur. C'est le diktat. Il y a lui et il n'y a rien.
Il est seul. Ouais.
Il est seul. Et puis justement, à l'aune de ce qu'on a raconté, dont le fooding, entre autres, et pas seulement accompagné, on n'est pas les seuls, il y en a bien d'autres, hein, Omnivore, le monde entier. Il s'aperçoit, le Michelin, qu'il a toujours du pouvoir, mais qu'il faut le partager. Et ça, il ne s'en est jamais remis. Alors, il a d'abord eu beaucoup de temps à se dire qu'il va falloir partager le pouvoir. Il commence à le comprendre. Mais c'est toujours gênant pour un petit livreur rouge ou un gros livreur rouge. Je veux pas faire sa révolution. Il a du mal à faire sa révolution. Mais aujourd'hui, on assiste à ce moment où le Michelin progresse, mais lentement, difficilement. Et puis le Michelin, le problème, c'est que, à la différence du fooding, pas de méthodologie, pas de communication, pas de transparence, beaucoup d'omerta.
Sur les critères.
De la même manière, les chefs qui se plaignent du Michelin quand ça les arrange, l'adorent aussi quand ça les arrange. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait Le Livre Noir de la Gastronomie Française et il y avait un chapitre qui dit il faut être deux pour lancer la valse. Alors, on critique beaucoup Michelin, il faudrait critiquer les chefs. Parce que les chefs, pendant des années et encore aujourd'hui, ils aiment le lundi. Ils sont pro Michelin, le mardi sont contre Michelin, selon le vent qui les arrange. Prenez Marc Vera.
Ouais, j'allais en parler.
Il a en 2018 3 étoiles. Michelin, c'est génial. En 2019, on ne sait pas pourquoi Michelin débile lui retire les étoiles. Faut croire qu'ils n'ont pas beaucoup de méthodologie. Et lui commence à. Donc moi, je fais ni confiance au chef ni au guide Michelin pour se révolutionner. C'est le public qui sera le juge de paix, et c'est peut-être une association avec le fooding ou le vent de l'époque qui va les faire changer. Les chefs vont
permettre de trouver leur voie. Ouais.
Je crois qu'ils sont. Ils sont un peu paumés par rapport à
ouais, c'est ça.
Et donc, on voulait peut-être passer sur toute l'autre dimension, parce qu'on voulait quand même se concentrer au début sur la partie critique gastronomique, ouais. Figaro Fooding. Mais comme disait Philibert au départ, tu as un slasher, donc tu as plusieurs casquettes. Moi, par exemple, en préparant les rendez-vous, j'ai regardé certaines vidéos de toi sur YouTube et j'ai découvert aussi ta casquette sur BFM, à la fois radio et TV. Et je t'ai vu même parler de l'industrie du luxe. Tu parlais des stratégies des Burberry pour aider le nouveau luxe. Donc, ouais. Alors, quelle place ça joue dans ta vie,
alors,
en fait?
Moi, d'abord, je suis pas un slasher.
Pardon.
Non, je vous le dis. Je suis pas du tout un slasher. Il se trouve que je fais quelque chose qui est beaucoup plus beau, je suis journaliste.
Et puis une cohérence dans toutes ces activités.
Le mot de journaliste, c'est synonyme de slasher. Encore une fois, quand tu es journaliste, tu dois avoir un comme passion, l'information et l'actualité. C'est ma grande passion. Et pas d'être écrivain, moi. Je suis ni philosophe, ni historien, ni romancier. Je trouve ça très vulgaire. Moi, je suis fier d'être journaliste et je m'arrête là. Je veux dire, je veux bien interviewer des philosophes, des historiens, mais nous... Journaliste, nous ne sommes ni historiens, ni philosophes, ni politiques. Nous sommes journalistes. Et j'adore mon métier. Et mon métier, c'est d'abord et surtout la passion de l'information et de l'actualité. Deux, dans ce cadre-là, j'ai une passion pour l'art de vivre.
Tu disais déjà, les restaurants, pour toi, c'est du théâtre.
Et l'art de vivre, entre autres la gastronomie. Et puis, j'ai mené ma carrière autour de ça. J'ai intégré un groupe qui s'appelle le groupe Jaloux, qui publie L'Officiel, L'Officiel Homme, qui parle beaucoup de mode, d'horlogerie, de beauté, de tout ce que vous voulez. Tout cet univers qui me passionne. Et j'ai essayé, j'ai peut-être pas arrivé, d'y appliquer une grille journalistique. Donc, et en vérité, ça aura occupé 80% de mon temps depuis mes 23 ans. Mais l'image portée avec cette montée en puissance de la food, gastronomie, hein. Du Figaroscope et du fooding, pour moi, on me voit d'abord comme un critique gastronomique. Ça n'occupe que 10 à 15% de mon temps. Donc ma carrière, elle est ailleurs. Mm-hmm. Elle est plus dans le lifestyle, dans ce journalisme-là. Mais je suis pas slasher dans le sens où je suis toujours journaliste. Mm-hmm. Mais dans le journalisme, un, je peux m'intéresser au lifestyle, avec l'édition Jaloux, un univers beaucoup plus vaste qui est celui de la culture, où on parle de cinéma, de musique, de sport, de littérature, et puis à la food. Mais c'est toujours l'axe premier, je suis journaliste.
C'est clair.
Mais c'est mon métier qui me pousse à slasher. Mm-hmm. Je suis pas un slasher par principe. Mm-hmm. Et ensuite, aujourd'hui, quand tu es journaliste, ou quelqu'un dans la communication, les supports sont devenus divers et variés. Beaucoup plus qu'avant. Tout était figé avant. Aujourd'hui, tu as toujours un peu la presse écrite. T'as les fameux réseaux sociaux qui peuvent être passionnants. T'as le digital. T'as la télé. T'as la radio. T'as l'événementiel. L'événementiel est un média comme les autres. Mm-hmm. Tu peux éditorialiser. C'est ce qu'on essayait de faire au fooding. Éditorialiser un événement. Mm-hmm. Si on parle du monde du luxe, je vais prendre un truc très prégnant, mais faire une vitrine de magasin, c'est un média. Ça s'éditorialise. Et pourquoi Hermès, par exemple, ou les Galeries Lafayette aujourd'hui, au moment de puisqu'on est en période de Noël, ils éditorialisent leur vitrine.
C'est
donc
clair.
Moi, je ne suis pas slasher. J'arrive pas à le dire. Je suis journaliste. mon métier, c'est l'actualité, c'est l'information, et il me conduit dans plein d'univers. Et j'ai plusieurs outils pour l'exprimer. La presse écrite, le digital, la radio, la télé
avec BFM.
Je slash rien du tout.
Tu as raison et je m'excuse. Parce que nous on se focalise sur la food parce que on s'appelle Business of Bouffe. Donc d'ailleurs.
Et moi par exemple, je ne serai jamais cuisinier.
Oui,
je ne suis pas mixologue. Vous voyez, je veux dire ça serait sortir de mon champ de compétences. Mm-hmm. Et c'est ça les slasheurs parfois que je reproche à certains slasheurs, c'est je peux tout faire. Moi, je peux pas tout faire.
Bien, très différent. Toi, c'est
vous voyez,
même
par exemple, on m'a souvent appelé pour écrire des livres de cuisine. Mm-hmm. Comme je vous l'ai dit, je sais pas cuisiner. J'ai dit je peux pas. Je sais pas cuisiner. Je sais pas écrire une recette. J'en ai fait un livre de cuisine avec Sébastien Demand. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé.
C'est cantine, c'est ça?
C'était cantine. Ouais. On a appelé 50 chefs, dont c'est le métier, pour revisiter 50 recettes de cantine. Nous, on a orchestré. Mais moi, jamais, j'écrirais un livre de cuisine. C'est pas mon métier.
Ton métier, c'est le journalisme.
Mais quand tu parles donc de ton métier journaliste, évidemment, tu as passé beaucoup de temps chez Édition Jaloux. En fait, aujourd'hui, ta principale source de revenus, c'est quoi? C'est salarié et Édition Jaloux, boulot, quoi.
C'est mon boulot. C'est 80% de mon temps. C'est 80% de mon
réseau. C'est freelance,
j'ai eu la chance d'avoir deux médias intelligents qui ne sont pas concurrents. Et comme je travaillais au Figaroscope, j'ai un statut de pigiste contractuel.
D'accord.
Mais je suis salarié d'avoir des...
C'est une espèce, quoi, des CDI?
Non, non, c'est un CDI, mais en fait.
Temps partiel.
Non, mais oui, enfin moi je suis chroniqueur, mais comme c'est des chroniques régulières, je suis un pigiste contractuel. Après ça devient, faudrait demander au SNJ, Syndicat National des Journalistes, vous expliquer tout ça, c'est compliqué, mais bon.
On a vu aussi
c'est honnête, hein.
Ouais, bien sûr.
On a vu aussi que tu avais lancé récemment une activité de conseil qui s'appelle la CAB avec Xavier Barbagelata. Tu peux nous en dire un peu plus?
Alors, oui, c'est on parlait de l'évolution des choses. Ouais. Aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, le monde de la gastronomie, et je le connais un peu pour en avoir été le témoin, j'ai pas dit l'acteur, mais le témoin, il évolue terriblement. On voit, et formidablement. On voit que enfin, quand je disais que l'assiette est le miroir de la société, c'est pas un vain mot, c'est une vraie réalité. Et donc, il y a des enjeux. Des enjeux de marque, des enjeux d'agroalimentaire, des enjeux d'agriculture, des enjeux nutritionnels, des enjeux de santé, des enjeux de commerce, des enjeux de communication. Ça se joue avec les marques, ça se joue avec l'industrie, ça se joue avec l'artisanat, ça se joue avec l'agriculture, ça se joue avec les chefs, ça se joue avec les restaurateurs. Et aujourd'hui, ce monde-là a certainement besoin parfois d'être aiguillé. Alors c'est quelque chose que je me refusais à faire pendant des années, mais il a pris tellement de puissance, et c'est Xavier Barjelata, qui est un ami, qui lui vient de l'univers de la publicité et de la com, et qui est par ailleurs agent de photographe, donc on a tous les deux bien gravité dans le monde des médias, on est complémentaires, et on s'est dit, oui, il y a certainement Nous, notre ACAB, c'est le sous-titre, c'est Food and Beverage. Ouais. Enfin, on pourrait dire gastronomie ideas. Nous, ce qui nous sommes, notre idée, c'est de donner des idées. Et après, de nourrir avec nos idées, des outils qui peuvent être le consulting, tout ça. Parce que je pense que aujourd'hui, ce monde-là a besoin d'idées. On verra si ça marche ou pas. Mais c'est d'abord ça. On est rapporteur d'idées. On n'est pas une boîte à outils, une boîte à idées au service des outils que les marques peuvent développer, le marketing, la communication. Et je pense qu'aujourd'hui, avec Xavier et d'autres, parce qu'on va faire intervenir beaucoup de personnes autour de nous, enfin, on l'espère, un peu comme on avait fait au Founi, eh bien, on peut être riche d'une expérience qui n'interdit, ou plutôt d'une expertise qui est née d'une expérience, qu'on peut apporter quelque chose. Et c'est quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. Alors la question qu'on me dise, qu'on va me poser immédiatement, est-ce que vous ne rentrez pas en collusion avec le métier de critique ?
C'est une des questions qu'on a eues d'ailleurs sur Twitter du site Les Testeurs, qui nous demande exactement quand tu comptes concilier ces deux activités.
Alors, pour une raison très simple, d'abord... je vais vous dire, moi, 80%, je vous l'ai dit, dans mon métier, je suis d'abord et surtout critique gastronomique. Donc, je m'intéresse au restaurant. Avec Xavier, notre ambition, elle est peut-être très prétentieuse, on verra ça. Mais on est plus intéressé par l'univers des marques, par l'univers de agroalimentaire, des univers aussi de d'autres marques comme le luxe, qui justement slash, et pour s'exprimer, certaines marques de mode, par exemple, vont chercher à avoir un vecteur d'expression via la food. Là, nous, je pense qu'on intervient. On interviendra beaucoup moins. J'ai pas dit constant sur le monde proprement des chefs.
Oui,
et
a priori, tu vas pas conseiller des restaurateurs, donc c'est là où il y aura pas de conflit.
Alors, je vais être très simple, ça pourra nous arriver, mais moi, elle est très simple, la règle, c'est que si jamais je conseille un restaurant, et c'est pour ça qu'il faut être transparent, ouais, c'est tellement simple dans la vie, je conseille un restaurateur, je dis, je mettrai la ou un restaurant, je dis, c'est très simple, il y aura jamais une critique de moi sur vous, jamais. Alors les gens vont me dire c'est un peu facile, mais non, c'est pas facile. Justement, c'est très simple, il suffit d'être cash et d'être transparent. Croyez-moi, ça va pas être le propre et le majeur partie de notre activité. Mais si un restaurant qui se lance, par exemple, a besoin de conseils en amont, eh bien pourquoi pas. Ensuite, on travaillera en équipe. Ce sera peut-être pas moi en direct, mais moi, je le dis, je m'interdirai d'écrire sur ce restaurant. Point barre. Mais j'aurais peut-être apporté beaucoup plus, c'est-à-dire les moyens d'avoir une bonne critique ailleurs. Mais moi, je m'interdirais, c'est très simple. D'ailleurs,
c'est
pour
très
certains
clair.
Chefs qui sont devenus des amis, en tout cas des proches, je n'écris plus sur eux, ils se reconnaîtront, ils le savent. C'est pas qu'on soit copains et amis, mais on est trop proches,
c'est
donc
biaisé,
je n'écris plus pour
ça.
Eux. Alors j'ai eu la chance, encore une fois, moi, de travailler, et le métier de journaliste, c'est des rédactions, de la presse, ou d'un site, c'est une équipe. Moi, j'ai eu de la chance, au Figaroscope, d'être avec Alice Bozieux et Hugo de Saint-Phal. Je dis, je connais trop un tel. Eh ben vas-y toi.
Ouais, t'envoies
voilà, c'est la force d'être une équipe.
Ouais, bien sûr.
On arrive vers la fin entre guillemets du podcast et on s'intéresse souvent donc à la suite en fait à l'avenir. Et avec toi on a voulu faire ça un peu différemment. On a voulu séparer ça en deux. D'abord par rapport à l'évolution de la gastronomie au sens large et après une vision un peu plus personnelle par rapport à toi-même. Il y a une question qui nous a été posée par les comptes Culture Food via Twitter qui est comment tu vois les restaurants de demain en fait.
Ça c'est compliqué parce que on est. Moi je crois qu'il y a des cycles dans le monde. Il y en a en économie, on le voit dans le climat. On sort d'un cycle entre 2000 et 2020 où tous les codes ont été cassés. Avant, je vous le dis, la gastronomie était quand même très figée. Elle était très. C'était certains pays. Aujourd'hui, elle est mondiale. Ensuite, t'avais des. Globalement, c'était un peu la lutte des classes. Hein. T'avais les grands restaurants pour une certaine truc, des restaurants moyenne gamme. Puis il y a des restaurants un peu populaires. Aujourd'hui, tout ça a éclaté. On a vu en 20 ans la montée en puissance de la bistronomie, de la street food, la revanche des takeaway, l'apogée des cuisines mondiales, des fusion food. Donc il y a eu tellement en 20 ans de changements que je pense qu'on va passer 10 ans plutôt à digérer tout ça.
Ouais.
Et donc moi, je ne me parierais pas. Et je peux pas vous dire que ce sera le restaurant demain. Ça, c'est de la science-fiction et je vais vous raconter des histoires débiles. Je laisse ça au toto de la food. Et il y en a plein. Demandez aux influenceurs. Ils doivent savoir, eux. Ils doivent savoir, les influenceurs, ce que sera le restaurant demain. C'est-à-dire qu'ils vont bégayer ce qui existe déjà. Moi, je peux pas vous le dire. Je dis juste qu'on sort de 20 années passionnantes où tout s'est cassé. Et c'est formidable. Mais on est tellement riche de ça que je pense qu'il va falloir un petit peu redonner du sens. et laisser poser un peu le soufflet. On va d'abord respirer et remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Mais on est riche de 20 années formidables. Aujourd'hui, tu peux respirer, décélérer un tout petit peu. Et la gastronomie, c'est pareil. Vous me dites comment je la vois. Mais on sort de... Elle est rentrée dans le 21e siècle avec un culot, une énergie. C'était une vieille fille, la gastronomie. Et à l'aune des années 2000, c'est devenu une jolie garce. Alors c'est formidable, mais elle allait partout. Moi, je crois que maintenant, il faut que la jeune fille se calme un tout petit peu parce qu'aujourd'hui, on est un peu parfois dans le précieux et l'irridicule, on est un peu dans la limite de l'indigestion. Donc je pense que la gastronomie aujourd'hui redevient une valeur forte, une tendance lourde, pour parler comme dans le business, et ça c'est tant mieux, elle est déringardisée, elle s'inscrit vraiment dans la société, dans le sociétal, mais là faut un peu poser le jeu et calmer le jeu, sortir un peu de la digestion, sortir des précieux et des ridicules. On le verra à la télé, beaucoup de programmes vont mourir. Dans l'édition, beaucoup de livres vont plus marcher. Tout ça va se calmer, c'est pas plus mal. Elle est bien installée, elle est sortie de la grotte. Mais là, faut calmer le jeu. Moi, l'avenir, c'est plutôt dire, on va décélérer un petit peu, travailler à redonner du sens et arrêter de partir dans tous les sens.
Parce que tu parles de ces des 20 dernières années et je pense que si tu fais référence à la notion, c'est les foodings qui, je pense qu'avec Candé Board avait un peu installé l'idée de la bistronomie, voilà, de la gastronomie décomplexée. Est-ce qu'aujourd'hui tu vois des mouvements de fond, des chefs qui font bouger les lignes? On parle beaucoup de l'impact sur la planète, en fait, c'est un sujet qui est
vraiment... Ça, c'est sûr que la notion environnementale, qui est toute neuve, hein, et qui est encore mal dégrossie, mais au moins elle est intéressante, elle va ouvrir un champ des possibles. Aujourd'hui, le problème, c'est que tout va trop vite aujourd'hui. Mais on sent que c'est une vraie axe. Pourquoi? C'est intéressant ce que vous me dites sur la bistronomie. Et je vais essayer d'aller vite comme ça on finira, mais.
Non, mais on est pressé, hein.
On a du temps, on a du temps.
Ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours dans des cycles. Je suis un peu énervé. Pas attristé, mais un peu énervé de, par exemple, ce qui se passe actuellement. Avec Alexandre et d'autres, hein, beaucoup d'autres, quand même. Pour déringardiser, on savait, parce que le public n'y allait plus, notamment la jeunesse, une génération n'allait plus au restaurant parce que ça le faisait chier, c'était trop figé, les menus dégustation, guindé, la grande messe du restaurant, la rectitude des choses, les smoking quand elle aurait... C'est pas possible. On peut bien manger, même formidablement bien manger, en étant plus décomplexé. Et il y avait une génération, notamment de chefs comme Candebord, tout ça, qui se sont dit, on va faire de la très bonne cuisine, mais parler un peu enfin à l'époque. C'est pour ça que le fooding, sa baseline, c'est le goût de l'époque. Décomplexer un peu les choses, y apporter un peu de coolitude, revenir un peu aux fondamentaux du restaurant qui doit être joyeux, humain, et vivant. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'en 20 ans, cette fameuse bistronomie, c'est quoi aujourd'hui? Alors, il y a 20 ans, si on prend Paris, les grands restaurants, c'était 8e, 16e, 7e. C'était, aujourd'hui, c'est 10e, 11e. Ok. 9e. Voilà, vous voyez. Deux sectaristes comme les autres. Mmh. À l'époque, on reprochait les serveurs raides comme la justice en smoking. Aujourd'hui, on a un autre uniforme, c'est le tatouage, la barbe, le piercing. Alors lui, il est pas raide comme la justice, mais il a un peu tendance à te taper sur l'épaule alors que tu lui as rien demandé. À l'époque, on s'ennuyait du menu dégustation. Aujourd'hui, on a le menu unique.
Mmh. Et ça t'ennuie.
À l'époque, on te disait, je ne comprends rien aux appellations prétentieuses de ces restaurants qui emploient le subjonctif de triple salto du légume. Ça, c'est les années 80-90. Aujourd'hui, on te slash. C'est la même snobisme. Je sais quoi, cucurbitacé, rouget, machin, tu comprends rien. Même snobisme. C'est-à-dire qu'on est retombé sous couleur et sous couvert de coolitude sur le même intégrisme. Et ça me gave. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à la fin d'un cycle. Il faut qu'il y ait peut-être une nouvelle génération, du nouvel air pour qu'on sorte de ça. Parce que moi, aujourd'hui, la bistronomie telle qu'elle est devenue aujourd'hui, elle me rappelle furieusement la haute gastronomie assez pénible des années 90. Alors, vous savez ce que je suis en train de dire? Je l'écris. Je pense que d'ici 6 mois, 1 an, tout le monde va le dire. Ils diront, ah, j'étais le premier à le dire. Non, t'as, comme d'habitude, pas été le premier à dire. Tu rebégayes bien. Alors là, je le dis très, très honnêtement. Non, vous voyez qu'on est à la fin d'un cycle. Donc, il y a eu plein de choses intéressantes avec la bistronomie. Il y a plein de choses qui vont amener. Mais là, faut réinventer la chose. Mmh. Et c'est quand je disais, calmer le jeu, sortir du précieux et du ridicule, ne pas courir dans tous les sens, mais redonner du sens, ça passe par là. Parce que là, aujourd'hui, on est un peu paumé. On se rend même pas compte qu'on... C'est pas parce que t'es dans le dixième, t'as un tatoué avec toujours les mêmes décors, les mêmes menus, que en fait, t'es pas en fin de cycle. Là, on est en fin de cycle. Alors, soit on s'en rend compte et on le dit, soit on va passer des années un peu tristounettes.
Mmh. Et tu vois des gens qui ont les bonnes réponses déjà ou pas encore?
Oui, il y a des choses intéressantes.
Il y a des signaux faibles.
Non, il y a plein de choses intéressantes. Par exemple, intéressantes, il y en aurait plein, mais je déteste pas le travail de certains sur ce qu'on appelle les tables en résidence, ouais. Qui ont compris que justement, pour ne pas tourner en rond, il était intéressant de créer le restaurant comme un théâtre un petit peu justement
figurant
au théâtre avec 6 mois j'invite un chef qui ne se lassera pas parce qu'il a besoin d'être créatif et qu'il en aura marre au bout de 6 mois qu'il se barre, bah plutôt qu'il se barre on lui laisse 6 mois carte blanche et puis après on passe à un autre spectacle. On parlait de la proximité du restaurant et du théâtre, ben se dire ben voilà moi j'ouvre un restaurant, c'est le cas de Fulgurance par exemple ou c'est le cas de Tontine,
ils se disent
on a un restaurant, un lieu fixe mais on change de programme tous les 6 mois, ça c'est intéressant. Mmh.
Et à Paris, il y a Fulgurance qui propose ça.
Fulgurance, enfin, voilà. Je dis voilà, ça c'est vraiment une piste et qui va, à mon avis, devenir une tendance lourde.
Ouais,
et ça,
c'est très intéressant.
C'est, je trouve ça assez formidable parce que l'époque zappe, l'époque est mal et vite, on peut le regretter. Mmh. Bah justement, plutôt que de se dire voilà une génération, alors là moi j'y suis pour rien, mais qui s'est dit bah, comme tout va très vite, comme on se lasse de tout, et ben on va accompagner cette accélération et on va créer vraiment des scènes dans lesquelles il y aura 2 programmes par an. Et ça, je pense que c'est une piste d'avenir.
Juste pour faire juste rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai un copain restaurateur qui me disait qu'il y a eu les Foodies et Herbistro 2014, ouais. Et il m'a dit 2015 c'était une année magnifique, temps plein, 2016 aussi, mais qu'au fur et à mesure tu perds cet effet nouveauté et c'est très compliqué. Il faut développer une clientèle des quartiers.
Exactement.
Et c'est la notion des spectacles en fait. Le spectacle est là depuis 2 ans.
Le problème aussi d'une génération qui est redevenue décomplexée avec la foot, c'est que aujourd'hui ce métier-là, il est formidable, restaurateur. C'est un métier au carrefour de tout, du management, de la communication, du business, du décor. Tu travailles avec des designers, de la création avec la chose culinaire, du voyage. Tu es appelé à du discours politique, tu dois avoir un avis un peu quand même sur l'environnement, te poser les questions, tu voyages, tu es amené à faire des conférences, des festivals. C'est un métier d'avenir. Il cristallise à lui tout seul plein de choses qui passionnent une certaine jeunesse. Il donne du sens, il nourrit, c'est formidable. Le problème, c'est que justement, quand tu es là-dedans, tu as du mal à t'enfermer dans un restaurant où tu te dis, un restaurant, c'est aussi un commerce, faut le faire tourner avec la compta, tout ça. T'es à la fois c'est un peu schizophrène, c'est-à-dire que t'as envie de conquérir le monde, de nourrir tous ces champs des possibles que t'offre ce métier, et dans le même temps, t'es un peu figé dans un seul lieu. Alors, c'est compliqué. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, les restaurateurs, ou les chefs plutôt, les cuisiniers vont se dire, moi, je serai plus sous contrat, je vais papillonner, vagabonder, et je vais travailler pour des scènes. Et moi, je crois beaucoup à ces tables en résidence. C'est vraiment une tendance qui doit être creusée. Il y en aura d'autres, mais celle-là, c'est peut-être, on parlait du restaurant d'avenir, très intéressant. Parce que ça permet au chef de pas se lasser, de pas s'enfermer dans quelque chose qu'il avait peut-être pas envie de faire, c'est-à-dire d'être restaurateur, avec tout ce que ça implique de commercial et de commerçant. Et vous voyez, c'est ça les pistes. Si ça va trop vite, plutôt que de dire comment on peut faire, alors soit on accompagne la vitesse en faisant des résidences, soit on décélère, et là, va falloir réfléchir comment décélérer. C'est pas évident, ça. J'ai pas trouvé les gens qui arrivaient à décélérer.
Tu parlais de sens. On a reçu une question assez pointue, d'ailleurs, de quelqu'un que tu connais, qui s'appelle Yamina Benaï, ouais. Sur LinkedIn, et qui nous dit, alors je cite, parce que la question est un peu longue, à l'heure des injonctions, de consommation alimentaire de tout ordre, au motif de la préservation de la planète, de la souffrance animale, selon toi, est-ce que l'écologie et morale font bon ménage dans la gastronomie?
C'est un peu comme l'écologie, c'est tout le problème écologique, ouais. On voit bien qu'il y a un débat qui est compliqué aujourd'hui sur l'écologie. Ça intéresse tout le monde, on est tous en prise avec ça. Mais moi je pense qu'avant de parler d'écologie et d'environnement et d'agriculture et de décélération et je trouve qu'il n'y a pas toujours beaucoup d'écologie morale. Ce que je veux dire par là, il n'y a pas beaucoup de vertu. Je vais vous prendre un exemple. D'ailleurs, ils sont complètement paumés, les chefs. mais complètement paumés. Parce qu'ils sont dans la contradiction totale. Et ce que je veux dire, s'ils n'ont pas de morale, c'est que ils oublient ce qu'ils sont. Aujourd'hui, ils te plaident la fusion food. Toutes les cuisines ont le droit de s'exprimer, c'est vrai. La cuisine n'a jamais de papier. Elle passe les frontières. L'épice passe les frontières facilement. Bon. OK. Et en même temps, ils veulent aujourd'hui être un peu souverainistes. C'est-à-dire, je vais être le Cavor. Ouais. Ils ont du mal, finalement. Ils veulent être le Cavor, on a l'impression. C'est un peu le débat de l'époque, entre mondialistes et souverainistes. Et en cuisine, tu as des gens qui disent, je suis souverainiste, en fait, je suis un peu sous le Cavor. C'est quasiment, j'en suis à deux doigts de créer ma propre éolienne.
Ils vont trop loin. Dans
les toilettes, il y aura du compost. Et dans le même temps, c'est les mêmes qui te disent,
faut fixer des
mais c'est quand même formidable l'émergence de la cuisine péruvienne. Ils n'arrivent pas, parce qu'en fait, il se trouve qu'ils sont pas très moraux là, parce qu'ils ne se posent pas d'abord les bonnes questions. Quel monde je veux, et ils veulent tout de suite y appliquer une espèce d'écologie technique, scientiste. Je vais prendre un débat que j'ai eu avec des véganes. Vous voyez, là, on est quand même dans la nourriture, on n'est pas loin de notre champ. Et ils m'avaient interpellé suite à une émission. Je parle bien des véganes, hein, je parle pas des végétariens. Et je discute avec eux, ils m'interpellent assez violemment, ils m'avaient reconnu dans un café, je me retrouve à 6 contre 1. Le mec dit mais ouais mais la souffrance animale le je suis tout à fait d'accord pour le moins de viande mais mieux de viande, on a milité avant vous les gars pour ça. Je suis tout à fait d'accord pour que quand même on dénonce les conditions dans les abattoirs. Après j'ai un peu la souffrance animale oui mais attention on va y aller doucement quand même si à chaque fois moi je suis pas contre le fait qu'on mange de la viande mais eux ils te disent par exemple que manger de la viande, c'est faire forcément souffrir un animal. Non, moi, je pense qu'il y a des cycles de la nature. Je les trouve très contre nature. Les animaux se mangent entre eux. Nous, on mange. Il y a une chaîne alimentaire. Faut pas l'oublier. Faut pas être débile. Alors, qu'on y mette les formes, certainement, mais annuler ça, c'est être contre nature. Et il y a eu un moment qui était terrible. C'est que je leur dis donc, vous êtes contre le cri de la langoustine au moment du courbouillon. Ils disent, bah, bien sûr. Donc la langoustine a une conscience. Excusez-moi, je ne crois pas que la langoustine ait une conscience. Qu'il y a un instinct animal, certainement. Une intelligence animale, c'est pas la même chose. L'instinct, c'est l'intelligence de l'animal. Il a peur, il sent la mort, mais il n'a pas écrit la critique de la raison pure. Non plus. Donc faut arrêter 10 minutes les faux semblants et le précieux ridicule. Deuxième chose, c'est étonnant que ces personnes qui plaident pour ce genre d'écologie pure et dure, pour ce soi-disant hyper-naturaliste, tu leur dis donc, vous êtes contre le cri de la langoustine au moment du tourbouillon. Mais, bien évidemment, vous êtes donc contre aussi l'avortement. Parce que, bien évidemment, l'embryon de 3 mois, faut le laisser vivre. Quelle que soit, la femme était violée, on peut pas l'avorter. Ah ben non, c'est attention, elle apporte en elle un embryon de 3 mois, c'est un être vivant. J'ai entendu des mouches volées. Vous voyez que c'est plus complexe
c'est
que ça.
C'est un sujet évidemment c'est quand même... très complexe.
Non, mais vous voyez que c'est plus complexe que ça. Et ils savaient pas quoi répondre. J'ai dit, attention, on est bien sûr la nature, mais la nature c'est aussi une construction de l'homme, c'est aussi une civilisation. On parle de la vigne, laisser le vin nature, la biodynamie, je suis pour, mais sans sectarisme, parce que on va pas laisser pisser non plus, on va pas laisser exprimer non plus le terroir bêtement. Le vin c'est une construction, on peut aussi après le... Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, au nom de la nature, en fait, on en devient terriblement contre nature. Et oui, ça s'appelle d'abord une écologie morale, et après on parlera d'écologie. Et c'est la même chose dans les grands débats de l'agriculture. On sait bien que c'est pas, et ça c'est très politique-politicienne, c'est très militantisme à deux balles, c'est on va passer au locavorisme tout de suite. Bah non, il faudrait qu'il y ait un plan, à la manière un peu, j'allais dire, excusez-moi, socialiste, dire, il faudrait qu'il y ait un plan, que tous les partis politiques de droite comme de gauche, républicains et En Marche, signent pour 20 ans, dire, on va avoir une politique agricole sur 20 ans, qu'on signera tous ensemble, quels que soient ceux qui emportent les élections. Et là, on va décélérer. On va rapidement essayer d'expliquer que l'industrie, elle doit calmer le jeu et faire monter en puissance peut-être le locavorisme, mais ça prendra 20 ans. Parce qu'en attendant, il y a bien une planète qu'il faut nourrir. Mais croyez-moi, il y en a certains, dans certains pays, entre rien bouffer, et pas bouffer de la merde, mais bouffer même des maïs transgéniques, ils sont peut-être contents. Ils sont peut-être contents.
Et on a pas mal évoqué donc les questions et c'est merci pour ton avis par rapport à l'évolution de la gastronomie. Non, mais les buts c'est pas de faire des amis, c'est de dire ce que tu en penses et ça c'est la tribune pour. Et par rapport à toi-même et tes projets perso et pro, les 5-10 années à venir, tu t'imagines comment en fait? Est-ce que tu veux être où d'ici 5 ans en fait?
Ça je me suis jamais posé la question. Une chose est sûre.
Tu fais pas de plan justement.
Non, j'en ai jamais fait. Je sais pas, mais quand même, et ça conclura bien, le podcast, c'est que moi, je suis parti finalement avec une passion de la gastronomie, mais sans penser que j'en ferais mon métier et que ça prendrait une part aussi prégnante et aussi passionnante dans ma carrière de journaliste. Ça, je pensais pas. Et finalement, en vérité, même si l'image portée encore une fois est d'abord gastronomique, je lui ai accordé très peu de temps ces dernières années. J'ai d'abord pensé plus à mes journaux, aux éditions Jaloux, à développer des titres, développer des émissions autour du luxe, autour du lifestyle. Ça a été ça, 80% de l'activité. Là, j'ai un peu le sentiment que j'ai envie de rendre à la gastronomie ce qu'elle m'a rendu, par exemple, et donner beaucoup plus de temps, notamment via ACAB, à cet univers-là. Et par une expertise que j'ai peut-être gagnée, on verra ou pas, ou conseil, eh bien, paradoxalement, les gens pensent que j'ai passé mon temps à faire de la gastronomie, j'en ai passé très peu. Et ces derniers, les prochaines années, j'aimerais peut-être lui rendre un peu plus et beaucoup plus m'investir dans le, dans ce champ-là. Ça peut paraître paradoxal, mais la vérité, c'est que je n'ai pas beaucoup donné, je n'ai pas beaucoup accordé de temps, et je pense que l'énergie que j'ai encore, j'ai que 51 ans, d'accord, je vais la donner beaucoup plus à l'univers de la gastronomie.
En tout cas, on voit que tu as des choses à dire, des choses à donner, et que tu as une grande légitimité, donc ça nous étonne
si,
pas.
Et si jamais tu veux participer dans un podcast avec nous en tant que intervieweur, on sera ravis de t'avoir.
Exactement, on pourrait faire des choses ensemble.
Je serais ravi,
C'est notre... On va imaginer une émission spéciale.
Vous devriez avoir des invités.
On va le faire. On va vraiment arriver vers la fin, parce que bon, voilà, tu dois y aller. On a une question toujours qu'on aime poser. C'est quoi pour toi ton... Et là, on va rester dans la bouffe. On va pas parler des sons jaloux, parce qu'on s'intéresse à la bouffe. C'est quoi pour toi, dans ta carrière, dans la bouffe, ton plus gros apprentissage ou échec, si jamais il y en a eu, et ta plus grande fierté?
Plus gros apprentissage, franchement, la chance d'avoir rencontré François Simon au Figaroscope, parce qu'il m'a appris, il m'a fait progresser dans le journalisme d'abord, et ensuite il m'a appris ce que c'était le journalisme culinaire. Et oui, il m'a beaucoup appris, c'est vraiment quelqu'un qui m'a appris, j'ai eu la chance, moi, aujourd'hui c'est beaucoup très difficile vraiment après d'avoir ce temps-là, j'ai eu la chance d'avoir un maître d'apprentissage, et qui aussi, ce sera un autre débat, on n'a pas tant parlé de ça, de la critique culinaire, mais c'est la critique, quand tu es journaliste, tu as 10 outils à ta 20, 40 outils dans ta matrice. Tu peux faire du portrait, du l'interview, de l'enquête, de la brève, de la dépêche, du filet, de l'humeur, tout ça. Puis il y a un genre qui s'appelle la critique. C'est un genre journalistique, ça n'est qu'un genre journalistique. C'est un peu comme prenons un cuisinier. Il a 25 façons de cuire une viande. Il peut la rôtir, la braiser, la griller, il peut tout faire. C'est formidable, t'as une viande et eux ils ont 20 techniques pour la travailler. Encore une fois, griller, rôtir, braiser, bouillir, c'est fabuleux, snacker. Eh bien nous, ce qu'on oublie de dire d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se défend mal les journalistes, on a, pour faire notre métier, 10 genres, 20 genres, le portrait. Et moi, un des genres les plus difficiles et les plus méconnus, c'est la critique. Car la critique, ça n'est pas un avis. C'est une construction intellectuelle, avec mise à distance, culture, impartialité, plein de choses. Tu dois donner les clés à ton lecteur de la baraque dans laquelle il va rentrer. Et moi, François Simon m'a appris à devenir critique culinaire. Il m'a appris un genre journalistique. C'est comme si j'étais devenu un grand rôtisseur. Et ce que je reproche d'ailleurs à beaucoup de journalistes, c'est qu'ils ne sont pas forcément des mauvais journalistes, mais ils viennent travailler sur des genres dans lesquels ils ne sont pas bons. Moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui est je suis pas un grand enquêteur. Je n'ai pas la patience de l'enquête. Je suis pas un grand reporter. Par contre, je me défends un peu en portrait. Je suis pas trop mauvais en interview. Mais j'ai appris la critique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas dit que j'étais bon, mais que je sais faire.
Ça prend du temps, justement.
Et ça prend du temps et ça s'apprend. Un, la critique, c'est pas donner son avis.
C'est pas dire j'aime pas.
J'aime pas. Donc on n'est pas chez TripAdvisor, on n'est pas chez les influenceurs. Je les respecte.
Pas binaire.
Et tout le monde a le droit de donner un avis, mais ce ne sont pas des critiques. Et personne n'a le droit de dire on est tous critiques. Certainement pas. C'est un métier, ça s'apprend et ça se travaille. Et même dans le genre journalistique, un journaliste bien formé doit à peu près jouer de tous les instruments. Ça va, je peux aussi faire une enquête, mais c'est pas ma spécialité. Et là, tu dois aussi travailler. C'est pour ça que j'aime bien la cuisine japonaise. C'est que t'as des gens qui vont travailler le sushi pendant des années. Des gens qui vont... Alors, ils sont un peu jusqu'au boutiste, mais je déteste pas quand même ce côté. Faut sur le métier remettre son ouvrage et polir un peu les genres. Vous voyez, dans le métier du bois, tu peux être charpentier, menuisier, ébéniste. Il y a des nuances. Et pour ça, ce sera un autre débat. Mais merci à François Simon de m'avoir fait progresser dans mon métier et de m'avoir appris un genre qui est compliqué, qui est pas facile, que les gens méconnaissent parce qu'ils pensent que c'est donner leur avis et ça n'est tout sauf ça, qui est celui d'être, de m'avoir formé à devenir critique gastronomique. Je suis peut-être pas le meilleur, mais je crois quand même que je sais en faire une.
Et justement, quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut devenir critique gastronomique? C'est de prendre le temps, c'est de trouver un mentor.
Travailler.
On sait pas le faire, d'ailleurs.
Non. Alors déjà, tu n'es pas passionné par deux choses. Ouais. Par les médias, parce qu'aujourd'hui, quelque part par les journalistes, oublie mon garçon, oublie ma jeune fille, dégage, va faire autre chose. C'est pas un job, ok? On n'est pas chez les slasheurs, là. Je suis pas journaliste à carton. Ouais. Ça, il y a des influenceurs pour ça. C'est un autre métier, mais c'est pas journaliste, ok? Donc, ils sont influenceurs, c'est un nouveau métier respectable. Je dis bien respectable, mais t'es pas journaliste. On n'est pas du même monde et nos deux mondes se valent bien. Bingo. Deux, j'espère que t'aimes sincèrement la gastronomie. Et que c'est pas par, c'est ça que je reproche
par
à l'époque. Il y avait des comiques qui avaient dit, si la mode était au tricot, tout le monde ferait du tricot. Des fois, je me demande si c'est pas vrai. Ouais. Donc, j'espère que vous aimez sincèrement la bouffe. C'est-à-dire que moi, je faisais des restaurants avant d'en faire mon métier. J'ai eu la chance de faire des restaurants par mon métier. Je peux vous dire que si demain, je ne suis plus dans ce milieu-là, je continuerai de claquer mon pommier dans les restaurants. Ouais. Ça, c'est clair. C'est une vraie passion. Troisième chose, travail. Et ça veut dire quoi, travail? C'est aussi, travailler, c'est pas de bosser bonheureusement. Lis des bouquins sur l'histoire de la gastronomie. Voyage. Quand tu voyages, va dans les marchés, va dans les boutiques, va dans les restaurants du monde entier, interview des gens, rencontre des gens, va dans les marchés, essaye de comprendre ce que c'est qu'une, observe les gens, cuisine si tu veux, apprends ce que c'est qu'une béarnaise, apprends ce que c'est qu'une sauce chauron, travaille, et travailler c'est beaucoup lire. Alors ça peut lire sur internet des livres, beaucoup observer, c'est notre métier. Et c'est pas s'improviser. Moi ce que je reproche à l'époque, c'est que je veux bien qu'on rentre dans la carrière quand les aînés n'y sont plus, c'est un peu con. Si on a l'occasion d'y aller avant que les aînés, en même temps que les aînés, pourquoi? Si on a du talent, on n'irait pas plus vite et qu'on attendrait que les aînés se disparaissent. C'est idiot. Mais faut quand même un minimum. Donc je suis pas pour le vieillisme et je suis pas pour l'ultra-jeunisme non plus. J'en ai marre. J'ai 21 ans, que ce soit un chef ou un critique, j'ai tout fait, j'ai tout vu. Bah non. Et ça se sent. Ouais. T'as tout fait, t'as rien vu. L'expérience, ça existe quand même.
Bien sûr.
Ça existe, je veux dire, dans tous les métiers. Et aujourd'hui, on a un peu le sentiment de ces métiers d'improvisation. Et le problème d'une certaine gastronomie véhiculée par certains médias, et notamment les réseaux sociaux et certaines télés, c'est de dire, c'est possible tout de suite. Bah non, faut bosser. Ouais. Et d'ailleurs, les gens, quand ils regardent Top Chef, ils disent, oh, je vais me lancer, parce qu'ils disent, oh, ça, j'ai trop envie. Puis ils ont oublié que les gars, ils ont beau avoir 24, 25 ans, ils sont sortis d'école en troisième, ils ont déjà 8 ans de métier. Ouais. Donc ils ont bossé. Donc t'improvises pas. C'est ça que je reproche. Ni jeunisse ni vieillisme, mais beaucoup de travail. Et le travailler, c'est aussi se cultiver. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, c'est se cultiver.
Nous avons une toute dernière rubrique et je me posais même la question avec Philibert, est-ce qu'on garde cette rubrique, on la garde pas, mais avec
voilà, c'est trop tentant là.
Ouais, avec toi, elle a tout son sens, que c'est quoi tes bons plans bouffe à Paris. Mais avant de te poser cette question, qui est un peu, parce qu'elle est assez large pour toi, il y a un truc que tu fais référence souvent dans tes entretiens, c'est une phrase de François Simon qui dit, un bon critique gastronomique, c'est une personne qui, après avoir pioché midi et soir pendant 20 ans dans différentes corbeilles des pans, commence à savoir c'est qu'un bon pan.
Exactement, ça rejoint
question que j'ai pour toi, quels sont les meilleurs pains à Paris? Parce que les pains, tu en goûtes 6 fois par semaine, donc...
Quels sont les meilleurs boulangers?
Boulangerie
Moi, j'ai un respect énorme, c'est très personnel, il y a plein de boulangers, mais j'adore Poujoran. Poujoran, parce que je trouve qu'il a... il a un vrai sens de la boulange, c'est-à-dire que non seulement il fait des pains, mais il a aussi le sens de la cuisine de la boulange. Faut manger ses feuilletages, c'est pas un pâtissier, mais il fait des desserts de boulanger. Donc il va te faire des croissants formidables, il va te faire des petits feuilletés au foie gras formidables. J'adore Poujoran aussi parce qu'il a toujours aimé, un peu comme moi, c'est un point commun, le monde du restaurant. Il a d'ailleurs, pour des raisons diverses et variées, arrêté sa boulangerie, sa petite boutique qui était rue Surcouf, pour installer un fournil où il travaille pour les restaurants. avec toute la logique que ça implique. Et du coup, son pain, on sent que c'est un pain de restaurant qui est intelligent, qui a été cultivé plus, plusieurs tablées. Bon, c'est mon boulanger favori. Et en plus, je trouve qu'on le retrouve dans plein de bons restaurants à Paris. C'est une bonne chose. Mais surtout, ce que disait François Simon, ça rejoint ce que j'ai dit. L'expertise, un peu, on peut aller vite, mais il faut quand même aussi prendre un peu son temps.
Faut laisser le temps.
Ouais. Faut quand même un peu faire son éducation, ce qu'on appelait à fait faire ses classes ou faire ses humanités. Et bah oui, quand tu manges, les gens me disent, bah, pour, vous savez, les gens sur la gastronomie disent, mais moi aussi je mange, moi aussi j'ai du goût. Mais bien sûr que tu as du goût et ton bon goût s'arrête là où commence le mien et vice versa. Mais par contre, tu n'as pas forcément de l'expérience parce que il y a plein de choses que tu n'as pas vues, pas connues. Et c'est une chance ou pas une chance, mais à un moment donné, effectivement, quand depuis 20 ans ou même on va dire pendant 2-3 ans tu manges tous les jours des corbeilles à pain différentes, tu commences à te faire ce qu'on appelle un palais. Alors sur la critique gastronomique, personne ne lit, mais vous croyez qu'un sommelier n'a pas travaillé des dizaines d'années pour à l'aveugle savoir ce qu'est un cépage, un cru? Ben la critique gastronomique c'est pareil, et c'est pas monsieur du genou chez TripAdvisor parce qu'il a fait un truc qui est crédible. Son avis en vaut bien, il est peut-être même intéressant. Mais ça ne fait pas une critique parce que c'est pas une construction. Et ça, pas, ça s'adresse pas à grand chose, pas à grand monde.
Et on a une question des.
La table du.
Il y a Culture Food, en fait, qui nous pose la question. Bon, c'est. Quelles sont les trois tables coup de cœur de cette année, quoi, pour toi?
Trois tables coup de cœur de cette année, ben, alors, c'est pas ma table préférée, mais justement, dans la dynamique, tontine, par cette idée de. Alors là, on est plutôt dans le genre du restaurant. Plutôt que de l'assiette pure et dure, cette idée de créer une résidence avec tous les 6 mois un nouveau chef. Voilà, là on est dans le genre du restaurant et j'aime bien le truc. C'est une année où le niveau est très bon à Paris en ce moment, mais j'ai pas eu des coups de cœur merveilleux, mais Tontine m'a intéressé sur le genre. En termes de gastro où on se fait plaisir, le grand restaurant, parce que ça existe encore, ou celui où on a envie un peu de casser la tirelire, parce que le décor est beau, parce que les femmes sont belles, parce que quand on sort, on a un peu des étoiles dans les yeux. Stéphanie Lequelec à la scène, parce que c'est une surtechnicienne, et que là, j'ai envie de dire, toute une génération un peu top chef qui sont très prometteurs, mais on voit qu'elle a, elle, c'est une ancienne d'ailleurs de Top Chef, mais réapprenez un peu le métier, un peu plus de technique les gars, pas deux jeux de cuisson, pas trois assiettes montées en porte-clés, un peu de cuisine quoi, un peu d'appétence, un peu de gourmandise, un peu plus de flamme, 10 sortes de flamme, et un peu surtout travailler à la sauce. La sauce c'est le génie de la cuisine française. Donc Stéphanie Lequelec pour le côté grand restaurant,
et un troisième,
et puis un troisième oh là là, les cordonniers sont les plus mal chaussés.
On savait que c'est une question qui allait te plaire.
Non mais il y en a plein, je pourrais vous en dire plein, mais demandez les favoris, parce que je vous pourrais vous citer Contraste qui est très bien, Origine qui est pas mal du tout, Le Cheval d'Or qui dans son énergie un peu asiate est pas mal.
Ah mais c'est bien déjà. On a une dernière question qui est assez jolie d'ailleurs, qui nous vient du compte Les Mimiseries sur Instagram et qui nous demande quel a été le moment gastronomique le plus émouvant de ta vie.
Alors il y en a un. C'était j'étais jeune, je suis pas du tout critique. Bon moi je suis fils de restaurateur donc on allait quand même souvent au restaurant parce que mon père voulait sortir ses antennes pour justement rectifier le tir, voir ce qui se passait dans l'époque et dans le goût de l'époque. Et une fois, et moi, à mon anniversaire, je leur demandais un grand restaurant. Alors, toute la famille.
À quel âge?
Oh, j'ai commencé à 10-11 ans d'être piqué. Et alors, mes frères étaient contents. Ce qu'il dit avec Emmanuel, ce qu'il y a de bien, c'est que comme cadeau, ils demandent un grand restaurant, donc on en profite.
Tout le monde
tous.
En profite, ben voilà.
Et donc, on est chez Marc Menot, à l'Espérance. C'est à Saint-Père-sous-Vézelay. C'est dans le Morvan, en Bourgogne. Et là, des années 80, 83, 84, peut-être, il sert un foie gras. Le canard, et sur lequel il y avait une espèce de dôme, de caramel, mais extrêmement fin. Il faisait des tours de moulin à poivre sur le caramel, et le serveur, enfin le maître d'hôtel, venait briser d'un coup de cuillère, de dos de cuillère, cette petite dôme en caramel qui venait s'éclater tout autour du foie gras. Tu avais donc ce caramel léger, cristallin, un peu sucré, le foie gras, de la chair, donc des jeux de texture à ce poivre. Ce plat-là m'a marqué. Et pourquoi s'il m'a marqué? Parce que je me suis dit, et c'est souvent quand même ce qui me reste pour les très très grands restaurants. Un très très grand restaurant, un grand chef, un chef créateur, un chef qui vraiment a le droit d'employer le mot de recette de signature, pas à 20 ans, t'as aucune signature du con. C'est un plat qui va t'accompagner loin et longtemps. C'est-à-dire ce plat-là, je dis toujours, quand t'as un plat, tu t'en souviens, 3 heures, 3 jours, 3 mois, 3 ans, 30 ans après, ouais, c'est un grand plat. Et ça, je me dis toujours, c'est pour ça la question dit, c'est quoi le... Ça, c'est très rare. Et c'est là où on voit que parfois, la gastronomie est une culture sûre, un artisanat majeur sûr, et parfois peut-être qu'elle vient titiller du côté des beaux-arts, parce que là, tu te dis, c'est fabuleux. Et c'est pas que, j'en ai eu d'autres après, pas tant que ça. Mmh. Mais celui-là, je me suis dit, ah, un plat, je l'oublierai jamais, comme je vais pas oublier les romans d'Erskine Caldwell ou Mort à crédit, ou je sais pas moi, ou les films de Melville. Voilà, c'est des trucs, tu te dis, là, c'est à mon sens, hein, mm-hmm, du grand cinéma, un grand écrivain, et soudain, en tout cas, je sais pas si c'est un grand chef, mais une grande recette. Et c'est déjà pas mal.
En tout cas, t'en parles bien, et vu qu'on est plutôt en fin de journée au moment où on enregistre ce podcast,
bon,
qui nous a donné l'eau à la bouche.
Bah, merci, c'était un plaisir. Là, on arrive vraiment à la fin du podcast. C'était un énorme plaisir. Merci pour ton temps.
Merci beaucoup, Emmanuel.
On espère peut-être t'avoir de ce côté de la table.
Ah, quand vous voulez.
Spécial, voilà. On va en parler. Et bon, à très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.